Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Avec l'analyse, le débat d'idées, deux heures d'infos, tous ensemble, en direct de Roland-Garros, nous retrouvons le match en cours, sa bataille très dure entre Djokovic et Tsitsipas. Nous y serons dans un instant, 2h45 de jeu, avantage pour l'instant aux joueurs grecs. 18h15, notre dossier sur le bac 2021 pour une année de plus. Et bien vous le savez, les épreuves se déroulent dans un contexte très particulier avec une nouvelle discipline, le grand oral, qui divise encore à une semaine des premières convocations. 19h15, à une semaine encore tout juste du premier tour des régionales, je reçois Sébastien Chenu, tête de liste du Rassemblement National dans les Hauts-de-France. Pourquoi ce scrutin a-t-il tant d'enjeux nationaux? Eh bien, je lui poserai la question. 18h30, le débat des grandes voix avec notre trio Laetitia Krupa, Frédéric Dabi et Philippe Moreau-Chevrolet. 19h30, dans nos essentiels sur Europe 1, la comédienne Véronique Geneste nous rejoint ici à Roland-Garros. Elle est à contre-courant dans un monde artistique en reconstruction. Elle crée un festival, théâtre et variété en Corse en scène, à Lumio et à Calvi. Du 17 au 20 juillet, hommage à Guy Bedos, marraine de l'édition, Muriel Robin.
Non, mais c'est un truc de fou. Les expressions, c'est un monde qui s'ouvre. Moi, je voudrais bien les voir, les gars qui les ont faites, les expressions. D'où ça sort, monter sur ses grands chevaux? Ben oui, non, mais c'est vrai. Ben, c'est vrai, quand on est énervé, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, vite, vite, sans les chevaux! Ben non, pas les petits, les grands. Non, ben pourquoi? Parce que je veux pas m'énerver sur un poney.
Voilà, Muriel Robin et Véronique Geneste, donc à 19h30 sur Europe 1. Et puis 19h40, le dernier service pioline de l'année en ce soir de clôture de Roland-Garros avec le vainqueur de l'année qu'on connaîtra donc dans quelques minutes ou quelques heures, 2h48 de jeu donc. Corinne Boulou, Cédric Pioline, Guy Forget, Johanna Chabas nous rejoindront. En attendant, le journal, c'est l'heure de l'info. Je vous accueille, c'est Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
C'est arrivé 18h au carillon d'Europe 1. Merci de nous être fidèles, merci de votre écoute. Voici l'info.
Et vous le disiez Wendy, presque 3 heures de match pour la finale entre Djokovic et Tsitsipas. Et pour l'instant, c'est le Grec qui mène de 7 à 1, mais rien n'est joué pour savoir qui va succéder au roi Nadal au palmarès de Roland-Garros.
Le départ du chef d'état-major des armées, le général Lecointre, après le 14 juillet. Un départ qui est un choix personnel et pas lié à la tribune polémique des militaires, on en parle.
Et puis 1 milliard de doses de vaccins livrées à travers le monde pour enrayer la pandémie, c'est l'une des promesses faites par les dirigeants du G7.
On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, de ses internationaux de tennis. Sa bataille dure ici, porte d'Auteuil, depuis presque 3h, 2h49 exactement. Corinne Boulou sur le court central, le court Philippe Châtrier, sous près de 30 degrés, pour savoir qui va succéder à Nadal. Alors ça se joue entre le numéro 1 mondial, Djokovic, et on vous le disait, le grec Tsitsipas. Corinne Boulou, avantage?
Eh bien écoutez, pour le moment, avantage à Tsitsipas qui mène 2-7-1. Mais attention, la tendance est en train de s'inverser là. Et Novak Djokovic est en train de renverser cette finale. Il l'avait déjà fait. Hein. Il avait été mené par le jeune Italien Musetti en 2-0. Et il avait fini par remporter, par abandon d'ailleurs, du jeune Musetti son match. Et là, il a quand même face à lui un adversaire d'une autre taille, d'une autre dimension. Stefanos Tsitsipas, 5e mondial. C'est sa première finale en Grand Chelem. Il a remporté donc les deux premières manches 7-6, 6-2. Djokovic est revenu dans la troisième. Il s'est imposé il y a quelques minutes 6-3. Et dans ce quatrième set, eh bien, Djokovic a fait le break d'entrée. Il mène 2-0. Je signalerai juste que Djokovic a fait une grosse chute lors du premier set qui a peut-être laissé quelques traces avant qu'il se remette dans cette finale. Et là, il y a quelques instants, avant l'entame de cette quatrième manche, c'est Stefanos Tsitsipas qui a fait appel au kiné, visiblement des douleurs lombaires, ce qui explique peut-être ses difficultés en début de quatrième manche.
Oui, Corinne Boulou, on vous retrouve en fil rouge, en fil couleur terre battue sur cette antenne d'Europe 1 du service des sports dans un petit instant. Avec nous, Fabienne Lemoyle.
Oui, l'actualité sportive, c'est aussi l'Euro. Et chez les Bleus, les états d'âme de Kylian Mbappé en conf de presse à Clairefontaine cet après-midi. La star du PSG s'est dit affectée par les propos d'Olivier Giroud après le match contre la Bulgarie. Giroud disait en effet dans l'équipe n'avoir pas eu de bon ballon lors de ce match amical avant son doublé. En clair, Mbappé aurait préféré que Giroud lui fasse ses reproches dans les vestiaires, pas dans les journaux. On y reviendra dans le journal des sports.
Il y a comme une impression de relâchement avec les gestes barrières en raison de ce beau temps. Les autorités doivent trouver la parade alors que la crise sanitaire est toujours bien là, malgré les 30 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose de vaccin.
Et exemple à Paris, sur l'esplanade des Invalides, deuxième soirée consécutive hier avec un grand rassemblement de jeunes venus faire la fête. Pour le deuxième soir aussi, évacuation donc par les forces de l'ordre. Au final, 3 interpellations. Romain Noquet, vous étiez au milieu de ces jeunes pour comprendre leur motivation.
Oui, et ils étaient des centaines, mineurs pour la plupart, à danser, chanter, sauter les uns contre les autres. Voilà, vous l'entendez, une fête XXL pour souffler, décompresser, avoir aussi sa dose d'adrénaline face aux forces de l'ordre. C'est ce que m'ont expliqué ces adolescents qui bravaient toutes les règles sanitaires.
Vous avez pas de masque ?
Dans les mains. Honnêtement, vu le nombre qu'on est, personne ne les assure, personne ne les porte en fait, donc bon.
J'ai pas mis de masque de la soirée, mais j'ai déjà eu le Covid il y a quelques mois, du coup, je fais un peu moins gaffe depuis.
Je suis vaccinée et je pense pas être un risque pour les autres, donc voilà.
Donc, ils vont revenir dès hier soir sur les réseaux sociaux. Des messages circulaient pour organiser d'autres soirées dès la semaine prochaine. Alors, ces rassemblements ont lieu en extérieur. Le risque de contamination est donc limité, rassure Bruno Mégarban. En fait, c'est plus la répétition de ces fêtes qui inquiète le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.
Ces soirées, réunions, rassemblements pourraient compromettre cette baisse en ralentissant davantage le rythme de la régression de l'épidémie, voire en conduisant l'épidémie vers un plateau qui ferait le lit d'un éventuel rebond plus important en septembre-octobre.
Alors certains politiques prônent la levée du couvre-feu, comme la patronne de l'Île-de-France Valérie Pécresse, une option balayée par le ministère de l'Intérieur selon nos informations. Plus de 35 000 personnes ont été contrôlées rien que vendredi soir. Pas de laisser-faire, donc il faut poursuivre ce couvre-feu car la situation sanitaire le nécessite, explique l'entourage de Gérald Darmanin.
Romain Noquet, merci. Mais autre témoignage de ce relâchement, c'est le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a demandé des sanctions après le non-respect des règles sanitaires, cette fois lors du match de rugby Biarritz-Bayonne, match barrage d'accession au top 14 remporté par Biarritz, avec jauge non respectée et notamment aussi vente d'alcool.
C'est donc par un communiqué que l'Élysée a annoncé à midi le départ du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, partira après le défilé du 14 juillet, Fabienne.
Emmanuel Macron a salué en lui le grand soldat, le chef militaire et le serviteur de l'État. Départ qui intervient dans le contexte de la polémique autour de la tribune des militaires. Est-ce qu'il y a un lien, Louis de Raguenel ?
Clairement non, même si cet épisode a meurtri le général Lecointre qui, sous la pression politique, avait eu des mots très durs contre les généraux signataires. Des propos mal perçus dans les armées où les anciens sont toujours très respectés. En fait, le général Lecointre a un projet en tête. Il s'en est d'ailleurs ouvert à des proches il y a plusieurs mois, servir autrement en devenant visiteur de prison. Selon nos informations, le chef militaire demande donc une première fois à Emmanuel Macron, avant Noël, de prendre sa retraite, refus du chef de l'État. Puis il demande une seconde fois, deuxième refus. Vous l'aurez compris, des relations pas toujours très simples avec l'Élysée. Finalement, Emmanuel Macron a accepté sa demande. Le général Lecointre défilera donc une dernière fois en tant que chef d'état-major des armées le 14 juillet prochain sur les Champs-Élysées.
Et est-ce qu'on en sait plus sur celui qui va lui succéder ?
Oui, vous savez, dans les armées, rien n'est improvisé. Et en réalité, on connaissait le nom de son successeur depuis plusieurs semaines, le général Thierry Burkard, un légionnaire qui a d'ailleurs été reçu à l'Élysée avant d'accepter cette lourde responsabilité. Celui qui est aujourd'hui chef d'état-major de l'armée de terre prendra donc ses fonctions le 21 juillet pour succéder à Burkard à la tête de l'armée de terre. 3 candidats ont été reçus récemment au ministère des Armées. Le nom de l'heureux élu devrait être connu dans les prochains jours.
Louis de Raguenel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Le journal revient dans un instant avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. La fin du G7 dans les Cornouailles et un engagement, la livraison d'1 milliard de vaccins à travers le monde pour enrayer la pandémie. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
18h10, si vous nous rejoignez au cœur de ce 18-20, Fabienne Lemoyle vous informe et nous reparlons du sommet du G7 qui s'est donc achevé en Cornouailles après 3 jours de réunion, Fabienne.
Première retrouvaille physique entre dirigeants et première rencontre avec le tout nouveau président américain Joe Biden depuis la crise sanitaire et la promesse, Diane Berger, du G7 de livrer plus d'1 milliard de vaccins à travers le monde pour enrayer la pandémie.
Oui, ces doses sont destinées aux pays les plus pauvres et l'idée, c'est vraiment de faire du vaccin une sorte de bien public mondial, annonce d'emblée Emmanuel Macron.
Nous nous sommes engagés à travers ce G7 à vacciner au moins 60% de la population mondiale d'ici l'année prochaine. La France, dans ce cadre-là, a doublé ses propres engagements en passant de 30 à 60 millions de doses partagées d'ici la fin de l'année.
Ces livraisons, c'est encore trop peu, répondent l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs ONG. Mais c'est une solution d'urgence, estime le président français. À plus long terme, il souhaite que les pays défavorisés puissent produire eux-mêmes leurs doses.
L'Afrique représente 20% des besoins de vaccination dans le monde. Elle représente 1% des capacités de production. Nous avons pris collectivement l'objectif qu'en aucun cas la propriété intellectuelle ne bloquerait les transferts de technologies qui permettent justement de produire dans l'ensemble des régions du globe.
Et pour y arriver, il soutient que des démarches seront accélérées auprès de l'OMC pour obtenir une éventuelle suspension des brevets sur les vaccins, une idée à laquelle Emmanuel Macron s'est converti le mois dernier.
Et pour ce premier sommet du G7, le président américain Joe Biden a parlé d'un sommet extraordinairement collaboratif et productif. Il doit rencontrer en ce moment la reine à Windsor avant de participer demain au sommet de l'OTAN.
Et nous terminons ce journal en Guadeloupe, où il n'y a plus besoin de justifier de motifs impérieux pour se rendre dans ce département des Antilles.
Oui, juste un test PCR négatif. Du coup, les avions se remplissent, comme l'a constaté à l'aéroport de Pointe-à-Pitre Richard Garnier de notre radio partenaire RCI Guadeloupe.
Pendant presque un an, les avions à destination des Antilles étaient vides. Mais depuis mercredi et la fin des motifs impérieux, ils se remplissent à nouveau. 1600 personnes en moyenne depuis 4 jours ont embarqué vers les destinations soleil comme la Guadeloupe. Car pour les visiteurs, les voyages représentent une véritable soupape de décompression.
Pour du tourisme, 3 semaines. La plage, la piscine, se reposer et le soleil. C'est une bouffée d'oxygène. Ça fait un an et demi qu'on n'est pas parti en vacances, donc ça fait du bien de pouvoir bouger un peu.
J'ai profité de la levée des motifs impérieux pour venir en Guadeloupe, la première fois.
Les Guadeloupéens d'origine, eux aussi, ont saisi cette aubaine pour rentrer au pays, quitte à s'octroyer de longs séjours sur place.
On a la possibilité de venir, retrouver la famille et tout ça, on en profite.
Ça me fait chaud au cœur de pouvoir venir voir ma famille.
On va se faire la bise ?
Oui.
Tu sais que c'est interdit ?
Oui, je sais que c'est interdit, mais ma maman, je ne l'ai pas vue depuis 11 ans. Je ne vais pas dire « Hello maman », je vais la prendre dans mes bras, ça c'est sûr.
Les premiers bénéficiaires de ce regain d'affluence devraient être les hôteliers ou les loueurs de gîtes, mais surtout les compagnies aériennes. Elles qui proposaient jusqu'alors une seule rotation par jour vont en proposer jusqu'à 3 dans les prochaines semaines.
Richard Garnier à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
Merci Fabienne Lemoyle, on vous retrouve la semaine prochaine pour l'Europe Midi et pour le 18-20 sur Europe 1. Voici le ciel, 18h12.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et un temps demain, Valérie Darmon, qui est encore estivale.
Absolument, les grosses chaleurs d'aujourd'hui en Languedoc et dans le sud-ouest ne s'atténuent pas du tout demain. Les maximales sont toujours aussi chaudes, elles sont comprises entre 18 et 22 degrés sur les côtes de la Manche, entre 29 et 33 sur une bonne moitié nord, entre 33 et 35 plus au sud, avec des pointes jusqu'à 37 dans l'Aude, la Drôme ou l'Ardèche. Les minimales, elles, vont s'échelonner de 12 à 13 degrés des frontières de l'est à 19 vers le sud-ouest, mais elles vont atteindre encore 24 degrés autour du golfe du Lion. Donc la nuit à venir va être très très chaude également. Pas de répit sur ce front-là. Le soleil lui domine toujours largement sur l'ensemble du pays tout au long de la journée. Des nuages d'altitude s'invitent en cours de matinée sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et quelques averses parfois orageuses sont possibles toujours sur la chaîne pyrénéenne. Des nuages élevés circulent aussi des Hauts-de-France jusqu'en région parisienne en toute fin de journée.
Merci Valérie Darmon.
Europe Soir Weekend.
On se retrouve dans un instant avec l'actu des sports. Nous qui sommes en direct de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle des internationaux de tennis. Après 3 heures de match, le grec Stefano Tsitsipas mène toujours 2-1. Djokovic mène 4-0 dans le quatrième set. On se retrouve dans un instant. L'éclairage aussi sur les matchs de l'Euro. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
18h16. À l'actu d'Europe 1, c'est l'actualité de tous les sports et le tennis à la une évidemment.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir Wendy.
Porte d'Auteuil, c'est une finale inédite en ce moment même. 3h05 de jeu à Roland-Garros sur le court central.
Exactement, il faut remonter à 2016 pour voir une finale sans Rafael Nadal. Mais à l'époque, il y avait déjà le Serbe Novak Djokovic qui est actuellement sur le châtrier face à Stefano Tsitsipas. Axel May, la physionomie de la rencontre a totalement changé depuis quelques jeux.
Oui, on le rappelle, un premier set remporté, allez, on va dire in extremis par Tsitsipas, un deuxième set qu'il a largement dominé, 6-2, comme si Djokovic avait laissé partir, filer le set. Il est revenu dans le troisième set de très haut niveau, avec 6-3 pour Djokovic, et puis là, le quatrième set, il est presque à sens unique, puisqu'il a été breaké deux fois Tsitsipas, et là, il est en train de servir, mais il est mené, hein, 5-1 dans ce quatrième set, et on l'a vu s'énerver, jeter presque de dépit sa raquette, et dans le regard de Djokovic, on sent que le Djokovic de ces derniers matchs, celui qu'on a vu par exemple face à Nadal, est de retour.
Merci beaucoup Axel, on le rappelle, ainsi Novak Djokovic venait à l'emporter, ce serait son 19e titre en Grand Chelem du côté de Tsitsipas, et bien il est en quête d'un premier titre majeur.
Corinne Boulou, Cédric Tuelin et Guy Forget seront là pour nous éclairer tout au long de cette rencontre. On passe au foot, l'Euro, et puis d'abord des nouvelles de Christian Eriksen évidemment.
Oui, le milieu de terrain du Danemark, victime hier d'un malaise cardiaque, va mieux, il est conscient et a pu discuter avec ses coéquipiers. Pour l'instant, le staff médical de sa sélection confirme n'avoir aucune explication à ce malaise, précisant toutefois que les examens réalisés sont très bons.
Alors on va noter un petit événement cet après-midi au cœur de l'Euro. Kylian Mbappé s'est présenté devant la presse.
Oui, l'attaquant des Bleus avait des choses à dire. Bonsoir Jean-François Pérez, chef du service.
Bonsoir Jadien.
On a assisté en quelque sorte à une mise au point de la part de Kylian Mbappé.
Oui, et alors il voulait déjà venir en conférence de presse dès jeudi, mais Didier Deschamps l'en a empêché, pas le meilleur moment, mais bon, ça n'a pas empêché Kylian Mbappé de dire ce qu'il avait sur le cœur, cash parfois gassé, voire tendu. Alors il a répondu à Olivier Giroud, qui déplorait mardi soir après France-Bulgarie ces fameux ballons qui n'arrivaient pas, ces soupçons d'individualisme. L'attaquant du PSG n'a même pas cherché, écoutez-le, à nier les tensions ni les états d'âme.
C'est vrai que j'étais un peu affecté par ça. Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Il exprime un sentiment quand il parle. Quand tu as le sentiment qu'on te sert pas, c'est plus, voilà, de le sortir publiquement. Je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit, et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit, en fait. Parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. C'est des petites broutilles. Et j'ai pas envie que cette préparation qui a bien commencé vienne perturber l'équipe.
Ouais, c'est sans doute un petit peu raté. Alors vous l'avez entendu, Mbappé reproche avant tout à Olivier Giroud d'avoir tenu deux discours, un devant la presse, l'autre dans le vestiaire. La bonne nouvelle, c'est que l'abcès a été crevé. La moins bonne, malgré tout ce que peut dire la star parisienne, c'est que cela pourrait laisser des traces, briser l'équilibre. Un mois non-stop en commun, ça peut être très très long.
Merci Jean-François. Un peu plus tôt dans la journée, l'Angleterre chez elle à Wembley a remporté pour la première fois de son histoire son match inaugural de l'Euro. Succès 1-0 contre la Croatie grâce à un but de Raheem Sterling. Puis en ce moment même, le petit nouveau de cet Euro, la Macédoine du Nord, eh bien, est menée 1-0 face à l'Autriche. But de Lainer à la 18e. Enfin ce soir, dernière rencontre de la journée. Les Pays-Bas emmenés par le Lyonnais Memphis Depay affrontent l'Ukraine. Coup d'envoi à 21h à suivre bien sûr sur Europe 1 avec le plus français des Néerlandais. Wendy, vous le connaissez très bien, c'est Dave.
Dave, que vous saluerez évidemment pour nous et pour tous ses fans. Dans le reste de l'actu sportive, on connaît les affiches des demi-finales du top 14.
Oui, avec l'Union Bègles-Bordeaux qui a créé la surprise en sortant clairement beaucoup d'émotions du côté des Bordelais, notamment pour le manager Christophe Furios qui a tenu à rendre hommage aux 5000 supporters présents.
Je ne me rappelle plus, hein, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un public aussi chantant tout le match. Même quand il y en avait 30 000, quoi. Franchement, ils ont été top. Ils ont été top. L'arrivée du bus, c'était bien. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça nous a surpris un peu, d'ailleurs. Il y a eu quelques larmes. Donc, non, c'est bien.
Voilà les larmes des joueurs de l'UBB qui affronteront un autre cador du top 14 en demi, le Stade Toulousain. L'autre demi-finale opposera le Stade Rochelet au Racing 92.
Les sports, Julien Froment. On vous retrouve un petit peu après 19h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
18h21, et il y a peut-être un peu de stress à la maison si vous êtes parent d'un lycéen à 4 jours de la première épreuve du bac, la philo, et avant le grand oral, nouvel exercice pour cette édition 2021. Si vous avez du mal à suivre, on fait un petit point avec nos invités juste après la pause.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h23, merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Encore une année particulière pour le bac, le contrôle continu représentant au minimum 82% de la note finale de l'examen. L'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral, nouvelle épreuve correspondant aux 18% restants. Avec nous ce soir, Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges, également enseignant, et Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Jean-Rémy Girard.
Bonsoir.
C'est une nouvelle édition compliquée, mais qui aura le mérite d'inaugurer ce grand oral. Avez-vous eu le temps, Jean-Rémy, d'y préparer vos élèves à ce grand oral ?
Oui, au SNALC, on n'est pas sûr que ce soit un mérite. Hein. On pense que c'est plutôt à la limite de la purge. En effet, les collègues sont dans des conditions extrêmement compliquées depuis novembre, hein, dans la plupart des lycées, où on est dans des groupes à effectifs réduits, avec souvent le fait qu'on voyait les élèves un jour sur deux. Donc les élèves sont eux aussi hein, dans des conditions compliquées. Donc le grand oral, il a quand même été difficilement préparé, d'autant qu'il n'y a pas d'horaire spécifique pour le préparer. Hein. Il est supposé être préparé sur les heures d'enseignement de spécialité, sauf oui. que sur les heures d'enseignement de spécialité, bah les collègues ils doivent aussi traiter le programme, et la plupart des programmes de spécialité sont assez chargés. Donc voilà, on se lance complètement dans l'inconnu. L'organisation hein, du grand oral est elle aussi très compliquée. Il y a beaucoup de collègues n'ont pas encore reçu les convocations.
Il faut bien une première. Il faut bien une première. Répondront certains de vos opposants, Jean-Rémy Girard, pour inaugurer une épreuve qui s'inscrit à l'inverse des épreuves de bachotage entre guillemets.
Il faut bien une première, mais c'est peut-être pas l'année idéale pour faire une première. Hein. Une fois encore, on est quand même dans une année où on a vécu la pandémie de plein fouet. Essentiellement, enfin plus au lycée d'ailleurs qu'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu beaucoup plus de mesures hein, prises au niveau des lycées. Et qu'on soit bien d'accord, le grand oral ne change rien à la question du bachotage ou du pas bachotage. Hein. Les élèves, ils vont préparer deux questions, ils vont réciter pendant 5 minutes le petit truc qu'ils ont préparé à réciter dans la première partie de l'exercice. C'est pas plus intelligent que l'oral de français, ça l'est même probablement moins. Et globalement, ça faut arrêter de dire aussi que ça va préparer les élèves au supérieur, cette épreuve du grand oral.
Alors c'est la question que j'avais posée à Louis Boyard, Jean-Rémy Girard.
Et voilà.
Oui, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes, savoir justement si, comme les examens au niveau supérieur, ce grand oral était finalement une première étape pour les lycéens pour s'y préparer.
L'objectif d'une épreuve, c'est de sanctionner un travail. Sauf que, comme ça a déjà été dit, il n'y a eu aucun travail qui permettait de préparer le grand oral. Déjà pour commencer de par la pandémie, mais aussi parce que même dans les cours, enfin, on comprend pas trop comment est-ce qu'on peut préparer un oral. Ça se prépare pas seulement sur le lycée. Et puis, pour une première, le faire en plein milieu d'une pandémie, les élèves trouvent ça complètement absurde et ils sont les premiers à le dire. Cette épreuve, elle a pas lieu d'être.
Il se trouve qu'elle aura lieu. Donc, tâchons de positiver.
Si vous voulez, vous pouvez positiver parce que vous passez pas l'examen. Oui. Les élèves, eux, ils doivent positiver parce qu'on leur laisse pas le choix. Mais par contre, ils aimeraient bien avoir le choix parfois. Parce que cette épreuve du grand oral, ils étaient beaucoup à être assez sceptiques. Moi, en tout cas, à l'époque, quand j'étais lycéen, j'étais assez sceptique. Mmh. Et puis aujourd'hui, en pleine pandémie, sans préparation, ils comprennent pas. Donc, comme ça a déjà été dit, ils vont bachoter, ils vont tenter dans cette grande première au milieu d'une mare de chaos. C'est ça, au final, ce baccalauréat aujourd'hui.
Il y a pas mal d'appréhension chez vos élèves, Jean-Rémy Girard, pour cette cohorte d'élèves de terminale en 2021 qui retrouve les bancs des examens. Certains n'ont pas été justement soumis à un examen depuis leur brevet, depuis 3 ans, 3 années particulières.
Tout à fait. Alors, ils ont été soumis aux épreuves communes, à la première session d'épreuves communes au printemps de l'année dernière, avant que la pandémie arrive. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'une vraie épreuve de bac. Hein. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui peut stresser. Ce qu'il faut bien voir, c'est comme la majeure partie du bac est en contrôle continu, vous l'avez dit, hein, 82%, globalement, beaucoup d'élèves savent déjà qu'ils ont le bac, voilà, ou qu'ils sont très près d'avoir le bac. Avec
le
en
reste,
plus l'épreuve de philosophie,
c'est pour
où on a une chance au grattage, une chance au tirage.
Oui.
C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise note à l'épreuve de philosophie, on vous la comptera pas, on prendra le contrôle continu,
meilleure.
Ce qui est quand même assez absurde, hein, là aussi, voilà, ce qui est complètement délirant. Hein. Soit on fait passer l'épreuve et on prend la note de l'épreuve, soit on la fait pas passer et on prend le contrôle continu, on choisit pas les deux en même temps. Bref, c'est n'importe quoi. Donc, en tous les cas, voilà, il y a du stress, notamment sur ce grand oral, parce que tout le monde est dans l'inconnu, les examinateurs aussi hein, sont dans l'inconnu. Mais en même temps, chez beaucoup d'élèves, il y a le fait de se dire que ils vont avoir ce bac et on n'en doute pas. Hein, le taux de réussite de ce baccalauréat sera très élevé.
Oui, Louis Boyard, vous rejoignez Jean-Rémy Girard là-dessus. C'est un peu un simulacre de baccalauréat, mais que dire à ceux qui ont besoin de motivation justement pour ces épreuves qui arrivent?
Continuer, de toute façon, ça fait des années que la pandémie existe, ça fait des années qu'ils ont besoin de motivation, ils n'ont pas vraiment besoin qu'on leur dise, ils sauront passer leur baccalauréat. En revanche, là où moi je me sens très très inquiet, c'est qu'on va avoir beaucoup de lycéens qui vont avoir leur bac, et tant mieux pour eux. L'année dernière, on a eu beaucoup de lycéens qui l'ont eu aussi, on va avoir beaucoup de redoublants dans les universités, et du coup, la vraie inquiétude qu'on doit avoir à moyen terme, c'est les bancs des universités qui vont être complètement surchargés par ce simulacre de baccalauréat. Elle est là la vraie inquiétude des lycéens qui sont en plein Parcoursup et qui pensent beaucoup plus à ça ces derniers temps.
Oui, pour terminer, Jean-Rémy Girard, message à tous les lycéens à quelques jours des examens.
Déjà courage. Ensuite, même si vous avez une bonne note en contrôle continu, en philo, forcez-vous à faire l'épreuve et à essayer de voir ce que vous pouvez faire jusqu'au bout. C'est un vrai bon entraînement, ça, pour le coup, en temps limité, dans des conditions d'examen. Et Louis Boyard a raison. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est Parcoursup. Donc, c'est ça qu'il faut suivre et voir notamment si, dans les classements des vœux, dans l'organisation, vous arrivez à avoir et ne surtout pas rater les délais pour confirmer un vœu. C'est vraiment ça, l'essentiel. Le bac, aujourd'hui, c'est une barrière de péage, elle est ouverte ou elle est fermée. Mais les vœux, en fait, tout est déjà joué.
Bien sûr. Merci Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges. Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Alors, ils vont réviser, ces lycéens, encore 4 jours avant les épreuves écrites de philosophie. Mais on leur laisse savourer le match du moment pour tous les passionnés de tennis. 3h18 de jeu à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Les deux joueurs mènent bien 2-7 chacun. Et on se retrouve dans un instant. C'est du beau tennis. Nous qui sommes en direct, on peut vous le dire, en direct de Roland-Garros. À tout de suite sur Europe 1 pour le débat des combats.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Mais avant, on retrouve Sophie Tussaud pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et justement, on prend la direction de Roland-Garros pour commencer ce flash d'informations. Corinne, comme c'est très serré, on vient de l'entendre, Wendy Bouchard vient de l'annoncer.
Oui, effectivement, Stefanos Tsitsipas au service à l'entame de la 5e manche parce que Novak Djokovic est revenu à hauteur du grec. Il était mené 2-7-0. Il est revenu à égalité en remportant le 3e 6-3 et la 4e manche 6-2. Et donc début du 5e set, seuls 5 joueurs jusqu'à présent ont réussi à revenir en finale et remporter un grand chelem après avoir mené 2-7-0. Est-ce que Novak Djokovic réussira ou Stefanos Tsitsipas? C'est très serré évidemment dans ce dernier et ultime set.
Merci Corinne Boulou, on compte sur vous pour nous faire suivre, vivre la suite du match. Dans l'actualité également, l'armée française va changer de tête. Le général Lecointre quittera son poste dans quelques semaines. Il sera remplacé par le général Thierry Burkhard, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Le G7 s'engage à distribuer plus d'1 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de 2022, dont 60 millions seront fournis par la France. Il s'engage également à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, annonce en clôture du sommet qui s'est déroulé en Angleterre. Rémi Daillet et sa famille sont toujours à Singapour. Ils n'ont pas embarqué à bord de l'avion qui devait les rapatrier à Paris. C'est ce que vient d'annoncer son avocat, le complotiste soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia à la mi-avril, doit être expulsé de Malaisie. Israël tourne la page de l'ère Netanyahou. Le Parlement s'apprête à voter le projet de la nouvelle coalition gouvernementale. L'Algérie, de son côté, attend les résultats des élections législatives d'hier et en attendant, le principal parti de la mouvance islamiste affirme être arrivé en tête du scrutin.
On retrouve à 19h sur Europe 1. Du côté de la météo, Valérie Darmon, prudence à tous sous les grosses chaleurs.
Et oui, le soleil est de plomb et la chaleur accablante en ce lundi aussi. La nuit en plus sera très lourde et pesante dans les grandes villes avec 17 à 23 en moyenne. Et la chaleur va augmenter encore dès le lever du soleil. Et dans l'après-midi de ce lundi, on attend 31 à 36 en moyenne avec des pointes vers 38 degrés localement sur les régions centre ou encore sur l'Occitanie. Seuls les bords de Méditerranée et les côtes de la Manche vont respirer à cause du vent marin. Et comme ce dimanche après-midi, des cumulus vont se développer sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Ils vont provoquer quelques ondées de chaleur isolées, mais qui peuvent être fortes. Donc sinon, c'est grand beau partout avec des maximales entre 22 à Saint-Brieuc et 36 à Carcassonne.
Europe Soir Weekend.
On se retrouve dans une petite minute avec le débat des grandes voix. Ils sont installés à Roland-Garros avec nous. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet. On connaîtra le grand gagnant de cette édition 2021 dans quelques instants. Match haletant avant de parler d'une semaine éminemment politique qui s'ouvre avec des candidats qui jouent leur va-tout à une semaine du premier tour des régionales. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Le voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1, ce dimanche 13 juin, en débat, en direct jusqu'à 19h. Nous avons inauguré la quinzaine à Roland-Garros et nous la clôturons ce soir depuis notre studio installé près du cours central. Avec Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, spécialiste de communication politique. Soyez les bienvenus. Bonsoir,
bonsoir Wendy.
À
bonsoir.
Tous les trois. Une réaction immédiate. Je vais donner la parole à celui qui connaît le plus le tennis autour de cette table. Première fois à Roland-Garros, il nous le disait en 79, cher Frédéric Dabi. Ce match, il est fou là. Hein. 3h20 de jeu.
C'est un match fou, c'est un cinquième set, on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à la finale de l'année dernière où Nadal avait écrasé Djokovic en 3-7. Mais là, ce qui se joue, Wendy, c'est historique, c'est un passage de témoin. Au cours des 16 dernières années, on a eu les victoires de Roland-Garros, trustées par Nadal, bien sûr, Djokovic et une fois Roger Federer. Il y a une fois la parenthèse Stanislas Wawrinka, un autre Suisse. Et là, est-ce que c'est la next gen, la nouvelle génération qui, pour la première fois, va s'imposer à Roland-Garros? Dominic Thiem, l'Autrichien, avait échoué deux fois au cours des trois dernières années. Et là, peut-être, Stefanos Tsitsipas, grec, qui a été en demi-finale l'année dernière, pour la première fois peut-être, il va... 23 ans dans quelques semaines. Et c'est vrai que pour la première fois, on verrait quelqu'un de la nouvelle génération qui était à peine né quand Rafael Nadal a gagné Roland-Garros pour la première fois en 2005, qui va mettre le pied dans la porte et sortir nos trois légendes. Federer, Nadal est là, le représentant, Novak Djokovic, mais il ne se laisse pas faire. Il a été mené 2-7-0, 2-7 partout. C'est peut-être lui qui va gagner.
Oui, il s'accroche hein, aussi, le grec de Tsitsipas, que vous découvrez manifestement, Laetitia Krupa, dans toute sa... de son splendide jeu et sa splendeur.
Oui, évidemment, c'est la génération Z. Hein, vous avez raison, Frédéric. Vous êtes bon hein, pour le storytelling, quand même. On a envie, effectivement, que cette nouvelle génération mette les vieux, enfin, vieux, pas si vieux, dehors. Mais c'est vrai que le match, là, est
avec élégance.
Exactement.
18h38 et on suivra tout cela avec vous. Je voulais qu'on revienne sur ces scènes. Alors vous les évoquiez, ce deux poids deux mesures entre le couvre-feu et la dérogation ici à Roland-Garros avant-hier, Philippe Moreau-Chevrolet et ces jeunes sommés par les forces de l'ordre de quitter l'esplanade des Invalides. On a eu la rebelote hier soir avec de nouveau les forces de l'ordre face à cette difficulté de la contrainte sanitaire. Bon, on est avec eux parce que c'est compliqué. Et puis, l'adresse du gouvernement, de l'OMS, du G7, de l'Europe sur la cadence vaccinale. Il y a 30 millions de Français qui ont reçu une première dose. Il faut aller plus loin, plus vite.
Philippe. Oui, c'est le message de l'OMS, alors qui à la fois nous demande de partager nos vaccins et en même temps d'accélérer fortement la cadence en disant que l'Europe n'est pas du tout sortie du bois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que si on n'accélère pas la vitesse de croisière des vaccinations, on va avoir un gros problème à la rentrée, voire plus tôt, d'ici quelques semaines, à la rentrée. Donc oui, il y a une grosse pression sur le gouvernement pour accélérer la cadence, et il y a un échec de la stratégie du tout vaccinal qu'on voit en Grande-Bretagne, qui fait qu'on se demande si ça suffit, la vaccination. Alors, on ne parle pas de reconfiner du tout, mais on parle de contrôler la qualité de l'air avec des capteurs CO2, avec des filtres HEPA. Il y a ça dans les écoles du 9e arrondissement, par exemple, où je vis. C'est très, très bien. Oui. Les gamins sont protégés, sachant qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est les non-vaccinés qui vont être les moteurs de l'épidémie dans les semaines à venir. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement accélère la vaccination des 12-25. À ce propos, il serait bien de la faire à l'école. On ne sait pas très bien pourquoi c'est plus possible alors que ça l'était dans les années 60. Souvenez-vous de ces images de vaccination. Alors, Frédéric nous parlait de ses souvenirs de Roland-Garros quand il était petit. Moi, j'ai des souvenirs très précis d'avoir été vacciné à l'école. Je ne pense pas qu'on ait perdu ce savoir-faire.
Oui. Donc,
moi aussi, l'hépatite B, mais souvenez-vous, ça ne nous avait pas porté chance. Hein, l'hépatite
et personne à l'époque ne défendait le virus, hein, il faut bien l'avouer. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avocats pour le virus et contre la vaccination. Et
c'est ça, vous avez tout à fait raison. Tout le monde a peur d'un procès, tout le monde a peur de ce précédent. Hein, l'hépatite B, on a été, en tout cas moi, j'ai été vacciné. Et ensuite, il y avait cette polémique d'une maladie consécutive à ce vaccin.
Sauf que l'autorité de santé a donné son aval. Hein. Les 12-15 ans peuvent être vaccinés à partir de mercredi.
Oui, mais quand on lit Alain Fischer, le monsieur vaccin, vous savez, c'était celui qui était désigné pour faire la communication autour du vaccin, mais qui a disparu pendant quand même, à mon avis, un temps long. Oui. Il dit qu'effectivement, ces mots sont vraiment étranges. C'est éthiquement inacceptable de considérer que la vaccination des adolescents va être concrétisée pour... qu'il y ait une immunité collective parce que il n'y a pas assez d'adultes qui sont vaccinés. Donc c'est éthiquement inacceptable, mais c'est un impératif arithmétique. Alors ça, franchement, alors Philippe, vous êtes bon en communication, vous êtes, c'est votre spécialité, on ne
allez
comprend
coacher
rien.
À la fiche.
C'est vraiment se faire un
surnommé, il est surnommé quand même Fisher Price par ses collègues, donc il y a une raison pour laquelle il est surnommé Fisher Price.
Parce qu'hier, la présidente de la Haute Autorité de Santé nous disait qu'il y a un bénéfice collectif à vacciner les adolescents.
On est tout à fait d'accord, mais simplement, c'est vrai que ce type de phrase, quand on sait qu'il y a encore des anti-vax et de beaucoup de scepticisme, c'est catastrophique.
Comment on communique, Frédéric?
Mais oui, c'est drôle parce que Monsieur Fischer, déjà, c'est lui qui avait fait la première fameuse conférence de presse fin novembre, début décembre, où il avait mis plutôt en avant les précautions, les risques du vaccin. C'est ça avait, je dirais, enquisté l'opinion publique, non pas dans un rejet du vaccin, mais dans une forte incertitude, une certaine hésitation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le débat sur la vaccination des plus jeunes, des adolescents, a réactivé le courant anti-vax sur les réseaux sociaux, sur quelques personnes assez illuminées, mais qui font des médias comme Francis Lalanne. Mmh. Mais politiquement, il s'est passé quelque chose. Le fait que le cap des 30 millions ait été franchi à l'heure, ça retombe positivement sur Emmanuel Macron. On a publié ce matin, Wendy, des indices de popularité du mois de juin. Il reste parfaitement stable à 40%, mais dans les raisons qualitatives, quand les gens s'expriment spontanément sur en quoi ils sont satisfaits, en quoi ils sont mécontents, pour la première fois depuis des mois et des mois, dans les raisons du mécontentement, ce n'est pas la gestion de la crise sanitaire qui arrive en tête, c'est l'insécurité, c'est des remarques plus générales sur les promesses non tenues. Et dans les raisons de la satisfaction, la vaccination devient le premier sujet de satisfaction sur le mode « il a tenu parole ». Il n'a pas, comme François Hollande, calé devant l'objectif quand le président Hollande avait promis d'inverser la courbe.
Et ils veulent continuer à communiquer. Nouveau spot de la vaccination lancé par le gouvernement. Écoutez.
À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés.
Voilà. Où l'on voit les t-shirts qui se lèvent sur les épaules, les vaccins administrés, beaucoup de jeunes et en rappel de ces vaccins, les lieux qui ouvrent, les lieux de spectacle, les terrasses, la vie qui reprend, Philippe.
C'est un excellent clip, vraiment c'est un modèle de bonne communication pour le coup sur la vaccination. Il faut qu'on ait la même chose sur la contamination dans l'air, ce serait génial, et il faut qu'on adapte les lieux qui accueillent du public. Il y a une polémique en cours sur les TGV. Les TGV ne sont pas assez protégés.
Oui.
Les TGV sont contaminants.
D'ailleurs, si il faut porter un masque FFP2.
Si vous allez dans le TGV, surtout porter un masque FFP2. Essayez de, essayez de vous protéger le maximum. Ne mangez pas, s'il vous plaît, si vous voulez vous protéger, protégez l'entourage. Ne mangez pas, ne passez pas 4 heures à manger un paquet de chips. Et ça, c'est des choses qui pourraient être travaillées. On a les connaissances et on a les matériels et ça coûte pas excessivement cher. Mmh. Et il faut qu'on le fasse, ça nous évitera un mauvais réveil en septembre.
26% des Français vaccinés totalement en France, c'est moitié moins qu'aux États-Unis, c'est 62% en Israël. Mais ces nations-là ont connu aussi des décélérations dans ce rythme vaccinal. Donc il faut communiquer. Peut-être même, disent certains, ça revient, Gilles Pialou, notamment l'épidémiologiste, rendre obligatoire la vaccination. Alors ça, c'est compliqué. Emmanuel Macron dit non, très clairement.
Emmanuel Macron s'est quand même posé la question avant d'y répondre. La question a été sur la table et elle est encore, d'après ce qu'on comprend, effectivement, pour certaines catégories de la population, peut-être les plus fragiles, peut-être les immunodéprimés, peut-être les personnes à comorbidité, comme on ne va pas les citer pour ne pas les stigmatiser. Bref, vous avez compris de qui je parlais. Peut-être certaines catégories, devraient être davantage incitées. Faut-il obliger ou pas? C'est compliqué. Il me semble aussi que, outre la communication, il y a tout un travail aussi d'approche, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les gens, il faut leur apporter le vaccin. Tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde n'a pas accès à Internet, et il faut aller aussi avec les médecins, doivent aller, les infirmiers, les pompiers, etc., vacciner les gens là où ils sont.
50% des professions médicales seulement sont vaccinées. Et donc, on rappelle ce que dit de l'obligation vaccinale Emmanuel Macron. Les gens, quand on leur laisse la liberté, on les convainc. Si on leur dit c'est obligatoire, ils vont dire waouh, qu'est-ce qu'il nous fait, Emmanuel Macron?
Oui, c'est vrai que c'est cette alternative, l'obligation, je crois qu'il y a des vaccins obligatoires, même il y en a énormément.
Pour l'école, il y en a presque une douzaine pour les enfants.
Les enfants. Mais c'est vrai que décréter aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de la question du tout, mais une obligation absolue de ce vaccin, ça ne peut que électriser le débat. Ça peut que réactiver ce courant anti-vaccin minoritaire en France, mais qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Moi, je crois plus, comme Emmanuel Macron, à une double stratégie, communication, persuasion. Mmh. Et puis, si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Allez sur le terrain, allez chercher un par un, si je puis dire, les personnes qui n'ont pas eu cette information, qui sont rétives, parce que Voilà, on sait très bien la difficulté pour certains d'utiliser les outils digitaux.
Et dépasser ce plafond de verre.
Il y a quand même cette crispation là des soignants, c'est-à-dire 50% uniquement vaccinés. Il faudrait quand même ouvrir un débat au sein de cette profession. Oui. Savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui bloque.
Étonnant, merci. Même,
très étonnant.
On fait une petite pause, 18h46 dans ce débat des grandes voix. Et on va entrer dans une semaine éminemment politique. Les candidats au régional sont dans la dernière ligne droite. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
18h49, les grandes voix d'Europe 1. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet sont avec nous. Et je compte dans ces grandes voix, évidemment, la grande voix du sport et du tennis en particulier. Corinne Boulou, vous qui êtes au cœur de ce match du moment, 3h37 de jeu. On se rapproche du dénouement, Corinne.
Oui, en tout cas, Novak Djokovic vient de faire le break. Il vient de prendre le service de son adversaire. Il mène 2-1. Il est au service pour tenter de confirmer cet avantage. Il est en train de prendre l'ascendant, là, maintenant, le numéro 1 mondial face au jeune grec Stefanos Tsitsipas. On va voir s'il arrive à se défendre. Mais pour le moment, 30-0 sur le service de Djokovic qui peut mener 3-1 dans quelques minutes.
Merci Corinne Boulou. 18h50, Philippe Moreau-Chevrolet. Alors, c'est le tennis pour la soirée. C'est aussi la politique qui anime tous les candidats en campagne. Et je crois que vous vouliez parler de ceux qui sont sur le terrain. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Ils vous inspirent.
Oui, ils sont très très en forme, hein, il faut avouer, Darmanin et Schiappa. Alors Darmanin nous a dit ce matin qu'une victoire du RN dans les PACA serait le signe de Satan. Oui. Donc on ne sait pas très bien pourquoi ce serait une marque satanique, c'est son expression. Alors, ça a été beaucoup commenté. On se pose la question, les mélenchonistes accusent Darmanin d'utiliser le même langage que certaines sectes complotistes, notamment la secte Canon, qui avait envahi le Capitole aux États-Unis, parce que le registre satanique, c'est plutôt leur truc. D'autres disent qu'il fait du Trump, il cherche à capter l'attention, ils n'ont vraiment plus d'arguments à opposer à Mariani. Sachant que Mariani a été quand même beaucoup poussé par LREM au début, par une sorte de maladresse qui en a fait le principal adversaire de tout le monde. Enfin bref, c'est leur Frankenstein un peu, Mariani à LREM, donc c'est une situation compliquée. Schiappa a fait applaudir dans une minute tout à fait qui rappelait Ségolène Royal en 2007. Vous savez, ces grands meetings évangélistes où elle avait une toche blanche et où elle disait à tout le monde d'être positif. Elle a fait la même chose avec une poignée de militants LREM, oui, en leur faisant applaudir Macron. Et on voit bien qu'il y a un clivage qui est en train de vouloir se créer entre le bien et le mal. Et je pense que c'est assez littéral. LREM joue la carte du bien contre le mal en disant « Nous, on est le bien, on est positif, on est la France qui va bien, qui se projette vers l'avenir, on est la majorité silencieuse des Français qui vont bien. Nos adversaires sont des râleurs, des grincheux et puis des gens qui sont vraiment mal, enfin qui représentent le mal absolu. » C'est un peu le scénario hollywoodien, c'est un peu Bruce Willis, c'est un peu Piège de cristal.
Est-ce que ça va fonctionner au fond ?
C'est pas très français, c'est très américain, c'est très marketing en fait. Est-ce que ça va fonctionner après tout ? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est leur stratégie. D'un autre côté, on constate que 78% des Français, d'après un sondage Ouest-France récent de la Fondation pour l'innovation politique, veulent voter au premier tour d'une façon protestataire. Donc on a le choc entre deux trucs. Une stratégie qui a l'air de tenir sur le papier de la France qui va bien, et d'un autre, des chiffres qui sont à la fois très bons pour le président et très mauvais pour l'élection en général. Donc c'est une situation indéchiffrable.
Oui,
enfin, peut-être que Frédéric Dabi sait déchiffrer. Non, c'est tout déchiffré, Frédéric, donc je ne vais pas m'avancer.
Je vais essayer. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que fait Philippe. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait hier. Hystériser le débat, délégitimer l'adversaire, c'était un de nos débats d'hier. Je pense que en stigmatisant le diable, l'extrême droite, je pense que ça fatigue les électeurs. C'est en décalage complet avec leurs préoccupations. Ils cherchent pas à remplir leur caddie d'extrême droite, mais voilà, de vivre, avoir une vie heureuse. Et ça, comment dire, ça, au lieu de déconstruire l'offre programmatique du Rassemblement national, de proposer des choses alternatives, on entend que c'est différents anathèmes. Moi, je pense que ça construit de l'abstention. Nos indicateurs IFOP fiduciaires annoncent une abstention de plus de 60% aux élections régionales. C'est du jamais vu pour une élection régionale. Ça fait 24 à 25 millions d'électeurs. Là où je nuancerais, c'est cette étude Fondapol. Je trouve bizarre d'additionner dans la protestation le vote Mélenchon, le vote Le Pen, puisqu'on a vu que maintenant, on peut s'en réjouir ou le déplorer, qu'il y a du vote d'adhésion pour Marine Le Pen, et surtout dire que l'abstention est 100% protestataire, ce n'est pas vrai. Il y a une abstention de désaffiliation, on ne croit plus du tout en la politique, et il y a cette abstention de vanité du vote. c'est pas de la protestation, mais on pense que voter, ça ne sert à rien et ouais, ça ne change pas la vie.
De la lassitude, de la déception, il y a beaucoup de causes, bien sûr, à cette abstention. Alors moi, juste pour nuancer un peu la ligne de Colm, RN égale Satan, je me suis posé la question, Philippe, vous avez peut-être la réponse, parce qu'il y a deux lignes de Colm. Effectivement, vous avez raison, j'ai relevé que, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, un élu LREM disait que l'élection potentielle de O'Doul représenterait une marque satanique. Donc, il me semble que c'est un élément de langage, c'est-à-dire que les élus LREM ont reçu des, ces petites phrases comme ça, à disséminer ça et là dans les interviews pour que ça crée effectivement
c'est
une.
Pas un dérapage de Darmanin, alors ce serait une phrase.
Ah, bah écoutez, moi je l'ai relevé là aujourd'hui. Et d'un autre côté, il y a quand même
Mais quel regard, pardon, sur les électeurs du RN hein.
Bien sûr, donc, mais justement, il y a une autre stratégie qui consiste à dire, et c'est Marlène Schiappa aussi qui l'a dit ce matin, le RN, c'est de l'arnaque. Mmh. Et par exemple, quand on lit Renaud Muselier dans JDD aujourd'hui, il dit aussi c'est une équipe de sous-doués. Oui. Donc vous voyez, il y a ces deux stratégies, c'est-à-dire délégitimer le RN en disant qu'ils sont incompétents, il me semble que ce serait plutôt la bonne stratégie à adopter que de dire, vous savez, cette récurrente critique de se reporter aux racines nazies du Front National, ancêtre du Rassemblement National, qui finalement ne fonctionne pas vraiment sur les électeurs.
Ah, il vaut mieux cibler les équipes que les électeurs, hein, Philippe Monchevrolet.
Oui, il vaut mieux, c'est la bonne stratégie, effectivement. Mais le Rassemblement National et Marine Le Pen est bien en train d'attaquer la technocratie en disant, nous, on n'est pas du tout des technos, on n'est peut-être pas super aussi intelligents, aussi fonctionnels que ceux qui sont au pouvoir, mais vous voyez bien que la technocratie, ça ne marche pas, donc votez plutôt pour des gens qui ont du bon sens. Mmh. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est embêtant, parce que ça signifie que le choc entre ceux qui savent et les ignorants, ça marchera moins bien. Après, sur le satanique, si c'est vrai ce que vous dites, Laetitia, je suis extrêmement surpris que ce soit un élément de langage, parce que je ne vois pas la rationalité, c'est même franchement inquiétant.
C'est une hypothèse, parce que quand je lis dans la bouche de plusieurs élus ou ministres du même camp les mêmes mots, oui, non, en général, c'est rarement une
raison, coïncidence. Laetitia, mais c'est surprenant. C'est surprenant.
Oui, mais c'est vrai que c'est très surprenant. Moi, ce que je comprends dans le côté satanique, ça serait que si, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur basculait au Rassemblement National, quid de l'attractivité touristique, quid des grands festivals culturels, il y aurait une marque, maudite. C'est comme ça, mais c'est extrêmement maladroit de stigmatiser comme cela, au lieu, comme je le dis, de par exemple déconstruire le programme et puis dire, j'ai pas le pourcentage exact, mais depuis 2015, on a une part très importante d'élus régionaux du Rassemblement National qui n'ont pas fini leur mandat, se sont fourvoyés dans des déclarations.
Sur les faits.
C'est ça,
c'est
une question de fait et puis de crédibilité.
Oui, tout leur programme est basé.
Ce qui risque de se produire, c'est que Mariani risque d'être élu, il va gérer la région et dans un an, on dira, mais regardez, ça se passe bien, parce qu'il va faire des efforts jusqu'à la présidentielle pour que ça passe. Et dans ce cas, l'argument se vide complètement.
Oui, leur
programme, juste pour dire, il est basé, enfin, je ne vais pas donner non plus des pistes à LREM, mais bon. leur programme est basé sur la sécurité qui n'est pas une compétence de la région.
C'est une question que je poserai à Sébastien Chenu, qui nous rejoint dans un petit quart d'heure, parce que le slogan de campagne de Sébastien Chenu, c'est « La région qui vous protège ».
Eh oui.
Formule ambiguë qui interroge beaucoup. On termine avec quelques petits mots que vous vouliez adresser à Jean Castex.
Oui, Jean Castex.
Depuis son domicile, il est en quarantaine.
Le pauvre.
Jean Castex, souhaitait reconquérir comme Emmanuel Macron, comme le chef de l'équipe, le cœur des Français. Lui aussi, il voulait prendre son petit bâton de pèlerin pour aller soutenir les candidats de La République En Marche au régional. Et puis, patatras, sa femme est contaminée par le Covid. Il est cas contact. Alors, à la Matignon, je peux vous dire qu'on croise les doigts très fort pour que mercredi, son test soit positif et qu'il puisse...
Négatif.
Ouh là !
Lui portait pas malheur.
Mon Dieu. Et pour qu'il puisse repartir, parce que figurez-vous que la petite rumeur, alors ça, c'est vraiment une musique qu'on entend inexorablement et je me demande pourquoi à chaque fois la petite rumeur de son remplacement a déjà commencé. Donc, Jean Castex doit revenir sur le terrain. On lui souhaite, bien sûr, un prompt retour.
Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet, les grandes voix d'Europe 1 que vous retrouvez samedi prochain et à mes côtés dimanche soir pour le 18-20 et pour la spéciale premier tour des régionales 19h30, 22h30. Merci beaucoup et à tout de suite pour l'info avec Sophie Tussaud.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, c'est le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, 19h. Merci de votre fidélité. Voici l'info.
histoire de prendre l'air, de profiter quand même du soleil, puis de me dégourdir un peu les jambes, de faire un peu d'exercice.
Le beau temps, le soleil et la chaleur pour la plus grande joie des Français. Aujourd'hui, le plaisir de trouver un peu de fraîcheur en se mettant les pieds dans l'eau.
Le général Lecointre va passer les rênes du commandement. Après 4 ans, il quitte ses fonctions de chef d'état-major des armées. Un départ, précise-t-il, pour ne pas que la nomination du CEMA ne coïncide avec l'élection présidentielle.
Après 12 ans au pouvoir, Israël tourne la page de l'ère Netanyahou. Aujourd'hui, pour en parler, nous serons dans ce journal avec l'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel.
Et puis les supporters français dans les starting blocks. Il se prépare à partir en Allemagne pour assister à la rencontre des Bleus. Ce sera mardi à Munich. Un déplacement avec plusieurs contraintes sanitaires.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais avant de développer tous ces titres, on vous emmène évidemment sur le cours central, tout près du studio d'Europe 1 à Roland-Garros, où se joue la finale du moment Corinne Boulou. Presque 4 heures de jeu entre deux géants du tennis, deux générations, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.
Dans une ambiance électrique, comme vous l'entendez derrière moi, avec un Novak Djokovic qui a pris l'avantage dans ce cinquième et dernier set. Il était mené 2-0 par le Grec de 22 ans qui dispute ici sa première finale en Grand Chelem et qui est passé tout près du bonheur, à un set du bonheur de remporter en premier titre. Et puis, Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qu'il ne faut jamais sous-estimer, est revenu. Et donc, à hauteur de Stefanos Tsitsipas, 2 partout. Et là, il mène 4-2.
Ça, c'est l'excès.
Novak Djokovic, oui, et là surtout 2 de double break pour s'envoler dans ce cinquième et dernier set. Il mène 4-2 et peut-être dans quelques instants nous allons le voir avec des échanges très longs, hein, évidemment. Ils essayent de se mettre KO l'un après l'autre, les deux joueurs. Et là, peut-être dans quelques instants, Novak Djokovic qui prendra encore le meilleur. Mais non, ça s'éternise sur une amortie. On va voir si elle est bonne et si Novak Djokovic va pouvoir la ramener. Et non, c'est sauvé par Stefanos Tsitsipas. 4-2 en tout cas, toujours pour Novak Djokovic dans le cinquième et dernier set.
Corinne Boulou avec nous en direct de Roland-Garros où l'on joue sous le soleil et la chaleur. 30 degrés sur le cours central Philippe Châtrier. Chaleur partout en France d'ailleurs.
Oui, record dans le sud à Perpignan et à Narbonne où il a fait plus de 35 degrés. Plus au nord, le thermomètre a bien grimpé également aujourd'hui. Pour tous, opération chercher de l'ombre et de la fraîcheur comme sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines près de Paris où vous vous trouvez Damien Mestre.
Oui, à commencer par ceux qui viennent chercher un peu de fraîcheur près du lac pour faire leur sport hebdomadaire, comme Philippe qui vient d'enfiler ses chaussures de marche.
Histoire de prendre l'air, de profiter quand même du soleil, puis de me dégourdir un peu les jambes, de faire un peu d'exercice. On a eu beaucoup de périodes où on est resté enfermé à la maison. On a tous des calories à brûler.
Même s'il faut bien avouer que beaucoup viennent surtout ici pour se détendre et pratiquer un sport un peu moins intense, la pétanque, comme Lucien, casquette vissée sur la tête et crème solaire, il inaugure la saison. Ça vous avait manqué ?
Ah oui, oui, depuis longtemps.
Ça fait combien de temps ?
Ah bah ça fait 2 ans.
Et en 2 ans, vous n'avez pas perdu les bons réflexes de bouliste ?
Oh si, c'est obligé.
Ici, il y a de la place, des pelouses sur lesquelles étendre des nappes de pique-nique, mais surtout de très grands arbres.
Oui, il fallait un peu d'ombre quand même pour pas trop prendre le soleil.
Cette famille vient de Dreux, les enfants sont en maillot de bain, en pleine bataille d'eau. Un bon moyen de fuir le centre-ville habituel.
Il n'y a pas de grand parc comme ça, on peut s'amuser, être en famille, ça rafraîchit avec le petit lac, c'est cool.
Une fraîcheur qui a quand même un petit coût. Ici, il faut payer 5 € pour accéder à la base nautique.
Damien Mestre à Saint-Quentin, en Yvelines, près de Paris.
Il est 19h04 sur Europe 1 et l'actualité de ce dimanche est marquée également par l'annonce du départ du général Lecointre, Sophie Tussaud.
Oui, la rumeur circulait depuis quelques temps, elle a donc été officialisée. Aujourd'hui, l'armée française va changer de tête. Le général Lecointre quitte le poste de chef d'état-major des armées qu'il occupait depuis 4 ans. Il sera remplacé après le 14 juillet par le général Thierry Burkhard, chef d'état-major de l'armée de terre. Un départ approuvé par Christophe Gomard, ancien directeur des renseignements militaires. Pour lui, il était important qu'il intervienne avant la prochaine présidentielle afin de ne pas politiser le poste.
Pour moi, le chef d'état-major des armées est neutre. C'est le rôle des armées que de rester neutre. On n'est pas dans un système à l'américaine où l'administration change au moment où le président de la République, nouvellement élu, arrive au pouvoir. Je pense sincèrement que c'est bien qu'il parte avant les élections présidentielles. Je crois qu'il ne serait pas bon qu'on ait un chef d'état-major des armées qui affiche son appartenance politique à un parti. Il aura fait 4 ans, ce qui est un temps normal chez un chef d'état-major des armées. François Lecointre atteint sa limite d'âge qui, chez les officiers généraux, est de 59 ans. Donc, il y a une certaine logique. Donc, ça me paraît sain et ça me paraît bien qu'il s'en aille.
Christophe Gomard, ancien directeur des renseignements militaires, avec Yasmina Katou pour Europe 1. La pollution en mer au large de la Corse continue de s'éloigner de la côte. La nappe d'hydrocarbures provoquée par le dégazage illégal d'un bateau dérive vers le sud de l'île de Beauté. Près de 4 tonnes de pétrole ont déjà été récupérées. D'importants moyens ont été mobilisés. Des hélicoptères et des avions survolent la zone pour suivre l'évolution de la situation. À l'enquête sur l'enlèvement de Mia, mi-avril, le complotiste Rémi Daillet, l'homme soupçonné d'avoir contribué à organiser le commando, n'a pas embarqué pour Paris après une escale à Singapour. Sa femme est enceinte, elle a dû être hospitalisée. Toute sa famille et lui-même doivent être expulsés vers la France.
En politique maintenant, il y a 19h06, Marlène Schiappa était invitée ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, Sophie.
La ministre déléguée à la citoyenneté, bien décidée à se battre face au Rassemblement national, elle a d'ailleurs fustigé certains partis de gauche qui font l'amalgame entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Le Rassemblement national est une arnaque. Ils ne font rien. Jordan Bardella se présente en Ile-de-France, il est sortant. Il n'a aucun bilan et il n'a pas de programme. Quand on vous dit Macron-Le Pen, ça se vaut. Quand on nous dit au deuxième tour, Macron-Le Pen, je n'irai pas voter parce que je suis de gauche, je veux garder les mains propres. Ça, c'est irresponsable. Quand on fait croire aux gens que la politique du gouvernement serait une politique proche des idées du Rassemblement national, c'est irresponsable. Quand on nous dit que lutter contre le terrorisme, c'est d'extrême droite, ou vouloir protéger les policiers, c'est d'extrême droite, je ne suis pas d'accord avec cela.
Marlène Schiappa, invitée ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos.
Une arnaque, le Rassemblement national, les équipes de Soudoué, une marque satanique en cas d'élection. Voilà les formules qu'adressent les membres du gouvernement et la majorité au Rassemblement national. Dans quelques instants, il est notre invité. Je le ferai réagir évidemment à une semaine des régionales. Il veut ravir les Hauts-de-France à Xavier Bertrand, le député Sébastien Chenu. 19h08, nous prenons la direction de l'Angleterre à présent, où le sommet du G7 s'est achevé sur beaucoup de promesses et d'engagements.
Les dirigeants des grandes puissances s'engagent à distribuer plus d'un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin 2022, dont 60 millions seront fournis par la France. Le G7 qui demande une enquête plus poussée de l'OMS sur l'origine du coronavirus en Chine. Le G7 qui s'engage également à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et avant de quitter le Royaume-Uni, Joe Biden a fait un détour par le château de Windsor où il est en ce moment reçu par la reine Anaïs Cordoba.
Oui, on a vu Joe Biden accueilli en grande pompe dans les jardins du château de Windsor au son de l'hymne américain joué par l'orchestre des gardes de la reine. Le président et la première dame ont ensuite été invités dans l'enceinte du château pour prendre le thé avec Elisabeth II. Ce tête-à-tête en privé avec la souveraine en temps de pandémie, c'est un honneur accordé au président américain par les Britanniques. Un cadeau diplomatique, comme le qualifie la presse ici. Et ça montre à quel point le Royaume-Uni tient à consolider sa relation avec le nouveau président américain. Cette relation spéciale avec l'allié historique n'a jamais été aussi cruciale pour les Britanniques maintenant hors de l'Union européenne. Quant à Joe Biden, tout au long de ce G7, il a répété « America is back », l'Amérique est de retour. Contrairement à Donald Trump, il a montré son attachement à l'OTAN, mais aussi au changement climatique, sujet qui a été central pendant ce sommet. Et on a senti du soulagement, presque de l'euphorie chez les dirigeants européens qui ont salué l'arrivée de Joe Biden. Emmanuel Macron s'est montré chaleureux, très proche de lui. Boris Johnson a qualifié leur première rencontre de bouffée d'air frais. Et Angela Merkel a parlé d'un nouvel élan pour le G7.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Europe Soir Weekend.
19h09 sur Europe 1, vous restez avec nous et nous reviendrons dans un instant sur la situation politique en Israël qui tourne la page de l'ère Netanyahou. Et puis les supporters français se préparent à partir en Allemagne pour assister à la rencontre de l'Euro mardi soir. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h12 sur Europe 1, Sophie Tussaud vous informe et Israël s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le Parlement doit voter dans quelques heures pour entériner la coalition du changement, Sophie.
Oui, un gouvernement qui réunira des partis de gauche, du centre, de droite ainsi qu'un parti arabe. Ce vote marquera la fin de l'ère Netanyahou. 12 ans de pouvoir, Benjamin Netanyahou qui fut donc le premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël et qui est bien décidé à ne pas en rester là.
Si c'est notre destin d'être dans l'opposition, nous le ferons la tête haute. Nous allons faire tomber ce mauvais gouvernement et nous serons de retour pour diriger le pays à notre manière.
Benjamin Netanyahou tout à l'heure devant la Knesset.
Et pour nous éclairer sur cette fin de règne, entre guillemets, trois questions à l'un des meilleurs spécialistes de la région, professeur à Sciences Po. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
C'est le matin du changement, a écrit sur les réseaux le centriste Yair Lapid, qui présente cette coalition de 8 partis, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et une formation arabe pour succéder donc à Netanyahou. Une coalition à ce point hétéroclite peut-elle fonctionner, Frédéric Ancel?
Alors, bien sûr qu'elle peut fonctionner, mais pourquoi faire? C'est ça au fond la question. C'est-à-dire que des coalitions hétéroclites, en réalité en Israël, vous en avez depuis la création du pays en 48, et j'ajoute que depuis la fin des années 80 et le début de l'émiettement ou de l'atomisation de la vie politique israélienne, au fond, c'était quelque chose de relativement courant. Mais ce qui est très révolutionnaire, c'est que cette coalition très baroque, très hétéroclite en effet, a un plus petit dénominateur commun totalement nouveau, qui est l'éviction d'une personnalité, en l'occurrence d'un Premier ministre sortant. Ça, c'est vraiment nouveau.
Oui, 12 ans au poste de Premier ministre pour Netanyahou, qui aura battu un record dans le pays, mais son mandat, on le sait, s'achève de manière très controversée. Quel est son avenir proche? C'est l'opposition ou c'est la prison, pour dire les choses clairement, Frédéric Ancel?
Ah ben c'est les deux, hein. C'est les deux. Mmh. C'est-à-dire que là, il rentre immédiatement dans l'opposition, en principe, dès ce soir, en réalité, puisque le bloc Netanyahou, c'est-à-dire Likoud plus les partis ultra-orthodoxes, c'est quand même 59 députés sur 120. Vous faites le calcul, il n'en manque qu'un. Donc, pour l'instant, il est dans l'opposition, mais il ne bénéficiera plus, de l'immunité en tant que Premier ministre. Et par conséquent, les trois affaires criminelles telles que les a qualifiées la justice israélienne, hein, notamment de corruption, il va falloir s'en expliquer et en répondre. Or, avant lui, Ehud Olmert, Premier ministre en 2008, puis un président de l'État, Moshe Katsav, avait été déjà tâté de la geôle en Israël pour des affaires d'ailleurs moins graves que celle-là.
Un dernier mot sur cette coalition, Frédéric Ancel, qui pouvait être porteuse de réconciliation, au moins symboliquement, mais le porte-parole du Hamas a déjà douché les espoirs en déclarant « Peu importe la forme que prendra le gouvernement israélien, cela ne change en rien la nature de nos relations avec lui, car il reste une puissance de colonisation et d'occupation à laquelle nous devons résister. » Donc circuler, il n'y a rien à voir du côté du Hamas.
Ça, c'est certain, comme toujours, puisque le Hamas a toujours joué la politique du pire, y compris d'ailleurs contre l'autorité palestinienne légale et légitime de Mahmoud Abbas. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans qui, pendant le processus de paix d'Oslo des années 90, avait tout fait pour le torpiller. Maintenant, du côté israélien, et on revient en deux mois à votre première question, on n'a pas grand-chose à attendre sur ce volet-là pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, la coalition est beaucoup trop hétéroclite, donc elle va s'occuper de social, elle va s'occuper de budget, ce qui n'est pas rien, elle va s'occuper de la voirie, des investissements, dans une certaine mesure de la diplomatie, mais certainement pas du dossier israélo-palestinien, parce que là, effectivement, il y a trop de différences entre les 8 partis qui composent cette coalition.
L'éclairage en direct de Frédéric Ancel sur Europe 1, merci. Il est 19h15, Sophie.
Oui, il y a un mot de la situation en Algérie. L'Algérie qui attend les résultats des législatives d'hier, un scrutin marqué par un fort taux d'abstention, et avant même l'annonce de ces résultats. Le principal parti islamiste en lice, le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, affirme arriver en tête du scrutin.
Et puis dans deux jours, c'est l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro de foot. Les supporters préparent leur déplacement.
Les Bleus affronteront l'Allemagne à Munich mardi à 21h. 2000 supporters tricolores devraient assister à la rencontre avec la crise sanitaire. Ils devront en plus se plier à des formalités et montrer patte blanche avec des tests PCR négatifs. Avant leur départ, Lionel Gougelot a rencontré les membres du club des supporters de l'équipe de France de Dunkerque.
Son billet numérique pour France-Allemagne précieusement enregistré dans son téléphone portable, Yannick compte les heures avant le départ demain pour Munich.
On part lundi soir pour arriver mardi midi à Munich, donc on va se taper 15 heures de bus à l'aller et 15 heures de bus retour.
Tous les supporters du groupe partiront avec un test PCR négatif en poche, mais une fois en Allemagne, il faudra réaliser sur place un deuxième test antigénique pour accéder au stade.
Donc en gros, on va devoir être testé en Allemagne le jour du match. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'on va arriver aux alentours de 12-13 heures et on va devoir trouver un centre de test pour avoir notre test pour entrer au stade. Moi, avec un bus, donc les 40, on va devoir se faire tester, même si ça prend 5 minutes chacun, on va passer encore 2-3 heures l'après-midi au lieu d'aller faire un petit tour en ville.
Dans le groupe de supporters, Mehdi croise les doigts pour que tous les tests soient bien négatifs.
Il ne faut pas se rater parce qu'on n'a pas envie d'arriver là-bas et être en quarantaine, quoi. Après avoir enduré plus d'un an dans l'attente de l'euro, on touche du bois, on va dire, pour vraiment qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait personne sur le carreau, puis qu'on puisse voir tous les matchs, quoi.
Des formalités sanitaires qui devront être répétées pour le prochain match des Bleus à Budapest, pour une compétition décidément pas comme les autres.
Déjà à la base, l'Euro, 12 villes au départ. Pour les supporters, c'était vraiment pas évident d'organiser quelque chose, surtout sur les phases finales. On est des passionnés, donc on est prêt à tout pour supporter l'équipe de France.
Une équipe de France que ses supporters espèrent bien accompagner jusqu'à la finale de Londres. À Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
Allemagne-France, c'est donc mardi à 21h, une rencontre que vous pourrez suivre en intégralité sur Europe 1. Le match, la finale à Roland-Garros, hein, qui est sur le point de se terminer, et vous retrouverez tous les détails après la météo.
Il se bat Djokovic face à Tsitsipas. Valérie Dormont, le temps de la semaine à 19h18.
Eh bien, toujours pour ce début de semaine, un soleil de plomb avec ce lundi et mardi, je le disais tout à l'heure, beaucoup de chaleur. Le soleil va briller du matin au soir. Mardi soir, à l'approche d'une perturbation atlantique, la tendance va tourner à l'orage dans le sud-ouest. Lundi, mardi, mercredi seront les journées les plus chaudes et difficilement supportables. Le matin, il fera 16 à 22 degrés et l'après-midi, 31 à 34 sur les trois quarts de la France avec des pointes à 37. On se situera près des records de chaleur pour une mi-juin. Mercredi, le temps se dégrade dans l'ouest avec des averses et des orages ponctuellement forts. Au passage de la perturbation atlantique, les températures perdront alors entre 5 et 8 degrés à l'ouest et cette baisse des valeurs aura plus de mal à atteindre les régions de l'est entre jeudi et vendredi parce que l'air très chaud va résister. Jeudi, averses et orages localement forts vont glisser justement vers cette façade est alors qu'une amélioration est prévue pour l'ouest. Vendredi, le temps est lourd, orageux, avec des averses sur la partie est de la France et les températures reviennent dans les normales de saison.
Merci Valérie. L'actu des sports revient avec l'actu essentiellement tennistique ce soir, Julien Froment, nous sommes en direct de Roland-Garros.
Effectivement, on va retrouver Axel May et Corinne Boulou pour ce cinquième set décisif entre Novak Djokovic et Stefano Tsitsipas avec le Serbe qui sert pour le moment pour le titre tout simplement.
Oui, il mène 5-4 dans la cinquième manche. Il mène 35 sur son service. Et vous entendez le public qui bouge beaucoup, disait Stefanos. Là, il est en train de dire quand même Novak. Voilà, le public qui se tait. Novak Djokovic qui va tenter de servir pour mener 40-15 dans ce set décisif. Si jamais il s'impose, rendez-vous compte, ce serait son 19e titre du Grand Chelem à une unité seulement de Federer et Nadal. Voilà, il sert, c'est dehors. Il aura le droit à une deuxième balle de match. Mais dans le regard, on sent que ça a changé. Tsitsipas qui était combattant lors des deux premiers sets, a un regard un peu perdu par moment, alors que Djokovic a retrouvé ce regard de tueur, hein, pardonnez-moi l'expression, mais qu'il a souvent sur les courts lorsqu'il est là pour gagner. L'échange qui s'installe et la balle est dehors. Autrement dit, on va revenir à 30 partout.
Incroyable. Nous sommes à deux points du match pour Novak Djokovic ou à deux points pour Stefano Tsitsipas pour recoller au score et revenir à 5 jeux partout. C'est un moment crucial dans cette finale après 4h08 passé sur le court. Novak Djokovic qui était mené 2-0 par le Grec de 22 ans qui dispute, rappelons-le, sa première finale ici à Roland-Garros. Et donc ce service, Axel, va être essentiel là pour Novak Djokovic. Encore une fois, obtenir une balle de match ou pour Stefanos revenir dans la partie. Attention, bon retour et bon service de Novak qui s'offre une balle de match à l'instant, Axel.
Oui, 40-30 dans ce jeu pour Novak Djokovic. S'il passe la prochaine balle, alors il n'a pas fait beaucoup d'ess, hein, seulement 5 depuis le début du match contre 14 ouais, pour Tsitsipas. Donc est-ce qu'il va s'offrir un ess? Est-ce qu'il va assurer? En tout cas, lui, il est habitué à gérer ses émotions. 28 finales disputées, c'est sa 29e et il en a remporté jusqu'à présent 18. Voilà, il va servir, il a toujours un rituel entre vous avez compté entre 12 taper. Et 20 fois la balle, il l'a fait rebondir.
Exactement. Allez, Novak Djokovic au service pour l'histoire peut-être, parce qu'il peut devenir le premier joueur à réussir un doublé dans chaque grand chelem. Et ça ne sera pas le cas encore. Incroyable, Stefano Tsitsipas qui vend cher sa peau. Il faudra que Novak Djokovic aille chercher cette victoire 40 à sur le service du Serbe. Incroyable fin de match avec un public électrique.
Oui, le public là qui est vraiment partagé à nouveau parce qu'il sent ce public qu'il est en train de vivre un moment historique. Déjà, c'est une finale inédite, historique parce que on l'a dit, si jamais Djokovic s'impose, il sera plus qu'à une unité de Federer et Nadal, et on sait cette rivalité compte beaucoup pour le Serbe. Et puis historique tout simplement parce qu'en face, Tsitsipas, on le présente comme le futur grand, en tout cas comme un champion qui pourrait bientôt remporter un tournoi du Grand Chelem. Le service de Djokovic, terrible coup droit sur le revers derrière de Tsitsipas. Tsitsipas qui essaie de renvoyer. Là, on joue un peu à l'essuie-glace, mais toujours à Djokovic qui a retrouvé son jeu, hein, qui était vraiment en difficulté dans les deux premiers sets, surtout dans le deuxième set. Il avait totalement lâché. Et là, l'échange qui s'installe. On a eu tout à l'heure jusqu'à 25 balles échangées entre eux. Tsitsipas, ça voilà le match qui s'est. L'échange
et Djokovic
qui s'installe.
Et Djokovic qui est sur un coup droit. Voilà. Long de ligne.
Avantage pour lui.
Voilà, nouvelle balle de match pour le Serbe. C'est une fin de match, on vous le dit, extraordinaire à Novak Djokovic, eh bien, qui a besoin de reprendre son souffle, tout comme Stefanos Tsitsipas, qui s'agaçait tout à l'heure, parce qu'il pensait, franchement, il n'est pas passé loin hein, de pouvoir remporter ce titre. Et Novak Djokovic, en numéro 1 mondial qu'il est, avec l'expérience, vous l'avez dit, des si nombreuses finales, 6 ici à Roland-Garros, il en a remporté une en 2016. Et donc, il veut aller tenter de conquérir une deuxième fois ce titre. Il serait d'ailleurs le deuxième joueur à réussir un doublé après Jim Courier en 1992, pardon, à réussir. Attention là, un smash et c'est fait. Novak Djokovic entre dans l'histoire. Il remporte pour la deuxième fois le titre à Roland-Garros. Et il est depuis 91 le premier à réaliser le doublé Open d'Australie, Roland-Garros. Mais franchement, Stefanos Tsitsipas n'a pas démérité, il n'a pas à rougir de sa défaite. Il a tenu la dragée haute au numéro 1 mondial, mais c'est finalement Novak Djokovic qui, après une incroyable remontada, pensait qu'il était mené 2-7-0, qui s'impose ici à Roland-Garros.
Il est en train de lever les bras au ciel, sa raquette dans la main gauche. Il baisse la tête tel un artiste, il salue le public qui est debout, qui applaudit. Voilà, il fait vraiment la main sur le cœur, il le sait, il a gagné, et il est évidemment extrêmement content. Et comme le disait tout à l'heure Corinne, c'est la première fois qu'un joueur dans l'ère Open gagne au moins deux fois chaque tournoi du Grand Chelem. Même Nadal, même Federer ne l'ont pas fait. On rappelle le score comme de ce match, 6-7. 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 et plus de 4 heures de match.
Magnifique victoire de Novak Djokovic en finale du tournoi de Roland-Garros 2021 que vous avez suivi en direct sur Europe 1 avec Corinne Boulou, Axel May. La rage de vaincre de Djokovic, 4h18 de match. On y reviendra dans quelques instants avec notre émission Service Pioline. Le tennis d'un côté, l'Euro de foot de l'autre. À partir de 20h, le football Europe 1 Club autour de Lionel Rousseau. On fait une petite pause, 19h24 et mes invités pour la politique d'abord, Sébastien Chenu. Puis pour nos essentiels, Véronique Genest.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h27 sur Europe 1 et dimanche prochain, à cette heure-ci, la plupart des bureaux de vote auront fermé au soir du premier tour des élections régionales et départementales. Avec nous dans le studio Europe 1 à Roland-Garros, Sébastien Chenu. Bonsoir Sébastien Chenu.
Bonsoir madame.
Vous êtes député du Nord, conseiller régional et tête de liste du Rassemblement National dans les Hauts-de-France. Et évidemment, vous regardez jour après jour avec attention la dynamique des résultats. Aujourd'hui, depuis plusieurs jours, vous êtes au coude à coude avec le président sortant Xavier Bertrand. Qui aura été votre meilleur allié pendant cette campagne, Sébastien Chenu?
Les habitants des Hauts-de-France, sans aucun doute. Nous, nous ne sommes pas dans des histoires de tambouille électorale, de tambouille politique. Moi, le message que je porte, il s'adresse aux habitants des Hauts-de-France. Et l'ambition que je porte, elle est toute tournée vers la région des Hauts-de-France. Moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je suis candidat pour redresser et protéger ma région, qui en a bien besoin, tant les difficultés sont nombreuses, le chômage, l'insécurité, la santé. Les signaux sont au rouge chez nous, dans les Hauts-de-France. Et nous avons donc besoin de faire vivre une alternance, c'est-à-dire une autre politique. C'est assez sain en démocratie de faire vivre une autre politique, une alternance. Ça permet d'ouvrir de nouveaux dossiers. La sécurité fait partie de ses priorités. C'est ma priorité. Ils n'ont pas été ouverts.
Mais qui n'est pas une compétence de la région à proprement parler, en dehors de la sécurité dans les transports
et faire des choses.
Des
il y a des présidents de région qui ont choisi de faire des choses. Mmh. Il se trouve que chez nous, dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a choisi de ne pas ouvrir ce dossier. Eh bien, nous accompagnerons les collectivités en matière de sécurité pour protéger les habitants. Puis on mettra fin à des dossiers, à des mauvaises habitudes, notamment celles qui consistent à avoir des inclinaisons ou des financements avec des structures complices de l'islam radical. C'est ce qu'a fait Xavier Bertrand pendant ces années. Avec moi, tout ça, c'est fini.
Attaque ad hominem, c'est votre ennemi prioritaire aujourd'hui.
Non, mais c'est le président de région, je juge ces 6 années. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à les juger si difficilement. La Cour des comptes a fait un bilan plus glorieux de l'action de Xavier Bertrand. Notre région est classée avant-dernière des régions en ce qui concerne sa gestion. En ce qui concerne son endettement, nous sommes lanterne rouge. Bref, la région est en difficulté et le bilan de Xavier Bertrand n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous avait raconté.
Je reviens sur votre credo, votre slogan de campagne, Sébastien Chenu. Est-ce qu'il n'est pas mensonger vis-à-vis des électeurs? La région qui protège ou qu'on protège, vous l'avez dit, économiquement, on la protège de différents maux de société, mais non, la région ne protège pas à proprement parler. Ce n'est pas sa compétence première, même si la priorité, même si la sécurité est l'une des priorités.
Les politiques que je veux mener sont des politiques qui sont destinées à protéger les habitants. Les protéger, je l'ai dit, dans leur sécurité, dans leur identité en rompant avec le financement de l'islam radical, mais aussi dans leur santé. Là encore, rien n'a été fait avec beaucoup de succès dans cette région.
C'est la protection les protéger, en sens large.
Oui, bien sûr, les protéger dans leurs emplois, dans leurs industries qui n'ont pas cessé de fermer. Moins 20 000 emplois industriels dans la région des Hauts-de-France sous Xavier Bertrand. Oui. Donc oui, il y a besoin d'être protégé pour faire rayonner.
Ne craignez-vous pas, Sébastien Chenu, qu'on résume la campagne dans les médias à des formes d'invectives ? Je vais vous citer les dernières en date. Gérald Darmanin qui évoque le risque d'une marque satanique que représenterait une victoire du Rassemblement national. Renaud Muselier, alors vous ne mâchez pas vos mots aussi, le Rassemblement national contre les autres partis. Renaud Muselier cible une équipe de soudoués. Marlène Schiappa parle d'arnaque en cas de vote RN. Quelle est votre réaction, votre posture ? On parlera de vous ensuite.
Ils sont obsédés par le Rassemblement national. Moi, j'aurais préféré que tous ces gens soient obsédés par le chômage, par l'insécurité, par la réindustrialisation de notre pays. Non, ils sont obsédés par le Rassemblement national. Mais vous savez, il suffit de demander aux gens qui vivent la gestion Rassemblement national ce qu'ils en pensent. Mmh. À Hénin-Beaumont, ils ont réélu leur maire à 75%. À Fréjus, au premier tour également. À Béziers, où nous soutenons Robert Ménard, pareillement. À Villers-Cotterêts, pareillement. Donc, vous savez, là où le Rassemblement national est aux affaires, il n'y a rien de satanique, mais surtout, souvent, ça masque, en fait, un bilan ou une absence de bilan. Leurs résultats sont nuls. Enfin, les résultats de M. Darmanin sont nuls en matière de sécurité. On n'a jamais eu autant de cambriolages dans le pays.
Il séduit tout de même 35% des électeurs, non, tout comme vous.
Leurs résultats sont nuls. Donc, ils masquent par l'invective. Vous savez, moi, je respecte mes adversaires politiques, mais je pense que derrière leurs invectives, il y a un total manque de respect des électeurs. Et ça, c'est très gênant.
Oui, quand Damien Rieu, l'un de vos candidats, cible sur un marché Éric Dupond-Moretti, cible sa montre, en l'occurrence, est-ce qu'on n'est pas exactement dans le même jeu ? Est-ce que vous l'avez recadré vous-même, Damien Rieu ?
Monsieur Dupond-Moretti vient se balader le week-end dans le Nord. Il a raison, oui. C'est sympathique de venir dans le Nord, mais il n'a aucun projet, il y a une espèce de cynisme permanent. Et M. Dupond-Moretti, vu l'état de la justice,
il suffit
de demander aux Français ce qu'ils pensent de la justice, vu l'état de la justice dans notre pays, ferait mieux d'être tout à sa tâche et ferait mieux de faire autre chose que d'essayer de libérer des prisonniers du matin au soir ou faire fondre les peines qui sont prononcées. On a une différence fondamentale d'approche. Nous, vous savez, nous n'attaquons pas les meetings de nos adversaires, nous n'empêchons pas les gens de s'exprimer. Nous proposons des choix politiques fondamentalement différents, mais nous respectons les autres. C'est probablement aussi une marque de fabrique et une différence entre nous et nos adversaires politiques.
Vous bâtissez votre candidature, Sébastien Chenu, dans le Nord, contre le système Bertrand-Macron. Deux hommes qui, dites-vous, font semblant de s'opposer alors qu'ils font les mêmes politiques. Sauf que le président sortant des Hauts-de-France a bien dit que sa liste serait la même au premier et au second tour. Pas de fusion. Donc là, votre argumentaire tombe, Sébastien.
Non, parce qu'elle est déjà pleine de macronistes. Elle est déjà pleine de macronistes, d'adhérents de La République En Marche. Regardez, les gens le savent dans les départements qui sont les membres de l'équipe Bertrand. Ils sont, pour certains, adhérents de La République En Marche.
Est-ce que c'est
grave ? Pour nombreux, ça montre que ce sont les mêmes. Faut pas mentir aux électeurs. Chez moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Vous trouverez pas un candidat qui soutient la politique d'Emmanuel Macron. Mais chez Xavier Bertrand, il y a cette ambiguïté. Et quelque part, ce côté constamment faux cul. Enfin, je veux dire, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bien sûr que rien ne sépare Emmanuel Macron de Xavier Bertrand. Ils sont d'accord sur la réforme des retraites. Ils sont d'accord sur la réforme de la SNCF. Ils sont d'accord sur l'ISF. Ils sont d'accord sur la vision qu'ils ont du monde. Et c'est là, pas très grave d'ailleurs.
On parle d'enjeux nationaux.
Non, mais bien sûr. Donc, mais on ne vit pas sur une île lorsqu'on est dans une région. C'est évidemment lié à l'approche que vous avez, à la philosophie politique.
Donc il faut nationaliser cet enjeu comme c'est le cas aujourd'hui pour vous.
Vous savez, à partir du moment où nos adversaires la nationalisent, Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, Monsieur Wauquiez veulent tous être candidats aux élections présidentielles. De fait, ils la nationalisent. Mmh. Nous, notre candidate Marine Le Pen, elle se prépare pour les élections présidentielles. Elle est, j'allais dire, dans son couloir. Elle ira chercher la confiance des électeurs. Elle ne mélange pas les genres.
Encore un mot, Sébastien Chenu, on en parlait hier dans les grandes voix d'Europe 1, sur Jean-Luc Mélenchon, qui désarçonne les Français et une partie de ses électeurs. Il perd 10 points de popularité en une semaine. Où iront les électeurs de la France insoumise ? Peuvent-ils vous retrouver sur certaines valeurs et leur lancez-vous un appel ?
Vous avez raison. Moi, quand Jean-Luc Mélenchon hurle sur la police, quand Jean-Luc Mélenchon insulte la police, il use de violence. Quand Jean-Luc Mélenchon défile dans les rues de Paris au cri avec des gens qui crient à la Ouagbar, il use de violence. Quand Jean-Luc Mélenchon a des propos complotistes, il use d'une certaine violence et il sort du cadre républicain. Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans ce cadre républicain. Et moi, je dis aux électeurs de la France insoumise, si vous croyez en la laïcité, si vous croyez au rôle nécessaire, central, et stratège de l'État. Si vous croyez à la nécessité d'avoir une conscience sociale quand on mène ce pays et non pas d'ouvrir ce pays à tous les vents du libéralisme et du mondialisme, alors vous êtes les bienvenus.
Sébastien Chenu, vous êtes en campagne, vous en saurez davantage dans une semaine. Et absolument, nous suivrons évidemment ce scrutin. Votre liste affronte celle du président sortant Xavier Bertrand, mais aussi celle de Karima Deli pour l'Union de la gauche et des écologistes, celle du secrétaire d'État Laurent Pietraszewski pour la majorité, et puis à moins de 2% aujourd'hui crédité, la liste Lutte ouvrière, Debout la France et la liste Divers droite. Merci Sébastien Chenu d'être venu jusqu'à nous. Merci.
Soir week-end.
Il est 19h35 et dans un instant, notre essentiel sur Europe 1 est comédienne et entrepreneuse. Alors que le monde de la culture se remet d'un an de blocage, Véronique Genest lance la première édition de son festival Corse en scène du 17 au 20 juillet. Quel est son ADN? Eh bien, elle nous en parle en direct dans un instant.
Europe Soir week-end, Wendy Bouchard, les essentiels.
19h38 sur Europe 1 et l'invité des Essentiels nous a rejoint en direct dans le studio de Roland-Garros entre deux allers-retours en Corse. Bonsoir Véronique Genest.
Bonsoir.
La Corse, vous inaugurez le 17 juin votre premier festival Corse en scène. Vous en êtes la fondatrice et la présidente. Et je le disais en préambule, quel courage de créer un tel rendez-vous alors que tant de festivals ont été annulés. C'est une manière de prouver que tout peut recommencer finalement.
Ah oui, mais moi dès que j'ai su qu'on allait pouvoir jouer en plein air, j'ai dit voilà, s'il y a un endroit où on peut jouer en plein air, c'est dans la magnifique Bête Calvi. Oui. Et tout à coup, je connais, moi j'habite Lumio, donc je suis en face. Calvi, je l'ai en face tous les jours. Calvi, c'est une ville merveilleuse. Lumio, c'est un village fantastique. Et je sais que des deux côtés, il y a deux théâtres de verdure merveilleux qui n'attendaient que moi. Voilà. Et donc, je me suis dit, dès que j'ai entendu qu'on avait le droit de jouer assis, je me suis tout à coup démenée. Et donc, depuis janvier, je suis dessus et ça y est, c'est prêt. On va commencer le 17. On y est. Il y a 8 spectacles. Ça va être la joie, ça va être la fête. Parce que c'est vraiment que des spectacles de bonheur et c'est du théâtre vivant, c'est-à-dire que c'est un melting pot de tous les genres. Autant il y a un spectacle musical avec une création de François Rollin, oui, qui s'appelle Allo Papa Django sur Django Reinhardt, qui est une comédie mais avec des musiciens, avec entre autres Roland Romanelli,
oui,
Roland Romanelli, qui était le musicien de Barbara,
accordéoniste, oui.
Et puis de tant d'autres. Et puis il y a des spectacles pour enfants, des spectacles interactifs pour enfants sur Napoléon, sur la famille Napoléon.
Les Bonaparte, qui famiglia.
Bonaparte, qui famiglia. Alors j'ai aussi un stand-up avec Roumanoff.
On va y venir parce que c'est une très belle programmation. Voilà. Le spectacle vivant qui est de plus en plus précieux. Vous êtes d'accord avec Sylvain Tesson, Véronique Genest, notamment quand il dit que le confinement nous a abreuvé d'écran et qu'il nous manquait de la chair, justement, cette communication avec les artistes qu'on verra.
Oui. Moi, je suis quelqu'un de communication. Mmh. On a eu un Covid interruptus avec notre pièce et on s'est retrouvés, après l'avoir joué 24 jours, on s'est retrouvés comme des orphelins. Moi, je suis incapable, je suis une hyperactive, je suis incapable de rester en place quand alors j'ai écrit une série avec Isabelle,
Isabelle Rougerie.
Moi, j'ai besoin de faire des choses. Et puis, un jour, on s'est dit, allez, je lui ai parlé d'un festival que j'avais inventé. Elle m'a dit, on le fait. J'ai dit, on le fait.
Vous allez faire la clôture le 20 juillet, d'ailleurs, de cette pièce que vous évoquez, voilà, Bêtise Family.
Absolument.
Isabelle Rougerie à la direction artistique et la marraine de cette première édition, Muriel Robin. On l'écoute.
Et maintenant, mélodrame. Oui, pourquoi mélodrame? Parce que bien sûr, il y a le théâtre rigolo, mais il y a aussi le théâtre pas rigolo. Oui, dans la vie, il y a la tendresse, il y a l'amour, il y a la tragédie, il y a ma soeur qui arrive demain, ça n'a rien à voir, ça. Et il y a le drame, alors... Mélodrame.
Voilà, c'est un peu moins d'habitude, elle s'énerve avec ses coups de théâtre. Muriel Robin, Véronique Genest, la marraine de cette édition.
Ouais, c'est la première que j'ai appelée Muriel, parce que Muriel, elle s'investit beaucoup aussi dans la région, elle aime faire des choses, et puis elle habite à côté de chez moi, et j'ai appelé tous les copains, j'ai appelé Thomas Dutronc, j'ai appelé tout le monde, et j'ai appelé Muriel en premier, je me suis dit, s'il y a une marraine possible, c'est elle. Elle m'a tout de suite dit oui. Elle m'a dit, écoute, je sais pas si je serai là, parce que le 17, peut-être que je vais tourner à cette époque-là, elle vient de me dire qu'elle serait là, oui. Donc j'espère qu'elle va monter sur scène, au moins nous faire un petit discours en disant le festival est ouvert. Oui. Elle est là, en toute façon, elle est dans le coin, elle est là.
Sous les étoiles corse de cette Corse, voilà. En scène. auréolée d'une mémoire d'un homme immense, artiste inhumé dans le petit village de Lumio.
Il a un intérêt à côté de chez moi.
Il sera
moi,
avec
je passe
vous.
Tous les jours devant lui et tous les jours je lui fais salut Guy. Il est dans ce joli petit cimetière de Lumio.
Vous lui dédiez ce festival en quelque sorte?
Je peux lui dédier, oui, absolument. J'étais à son enterrement avec Nicolas et tout le monde. C'était très émouvant parce que justement, il y avait les Patricia qui a chanté à son enterrement et qui va chanter d'ailleurs au festival aussi. Et il y avait Taobi qui était un copain. Il y avait tous les amis comme ça. C'était vraiment très, très émouvant et très beau son enterrement. Et c'était une vraie communion autour de ce monsieur qui était vraiment, moi, que j'aimais beaucoup. Et chaque fois que je croyais, j'ai dit, on se parlait, Il était chez lui là-bas, il était vraiment trop mignon.
Ça sera une belle âme, hein, vous citiez au Festival Corse en Seine. Guy Bedos, vous citiez des copains, Muriel Robin notamment. Et puis le 17 juillet, donc pour ouvrir cette première édition,
Marianne Chazelle et Stéphane Guillon qui sont à côté de chez moi aussi, et Thomas Dutronc, et j'en oublie.
Tous les copains sont là,
ils sont
dans la même énergie.
On habite les uns à côté des autres.
Le 17 juillet, Corse en Seine ouverte, c'est une scène que vous ouvrez aux jeunes talents pour inaugurer cette édition.
Oui, j'avais envie, et ça c'est en allant à Télépaès qui m'ont dit comme ça, ils m'ont dit t'as pas une petite place pour un jeune talent, et comme j'ai aussi un bénévole qui vient nous assister, qui vient nous aider et qui est aussi un imitateur, j'ai dit mais écoute, j'avais envie de faire quelque chose, j'ai une place de libre encore le 17, j'ai pas, et au départ j'avais quelque chose et puis après j'ai arrêté et j'ai dit écoute, alors on fait un truc, on va faire des auditions et on va faire passer plein de jeunes talents et on va le faire gratos. Voilà, donc on va faire l'audition le 7 juillet. On a secrétariat.telepaez@gmail.com. Toutes les bonnes âmes peuvent venir.
Magnifique.
Tout le monde peut. Voilà. Et même le 7 juillet à 19h, ils peuvent venir pour l'audition parce que je trouve bien d'avoir la vie et le rire d'un public.
Alors, il y a
Lumio, au théâtre Laetitia Casta de Lumio.
Et puis à 21h30, des spectacles à Calvi sur le théâtre de Verdure au bout du port de Calvi.
Tous les spectacles de Lumio sont à 19h, sans décor. Ça va être c'est un lieu tellement magique dans les orangers. Ça va être juste un miracle avec le sol, juste la grande scène posée au sol, les petits gradins en pierre et les chaises. Ça va être juste magique. Et tous les spectacles de Calvi sont à 21h30 au bout du port, effectivement, sur le théâtre de Verdure de Calvi, avec des gradins, avec 700 places, avec une immense scène, des lumières, des trucs.
Et celle qui inaugure cette première édition à 21h30, c'est notre copine Anne Roumanoff, avec son spectacle « Tout va bien ». Écoutez ce qu'elle dit d'ailleurs de la période que nous traversons sur Europe 1, avec ses billets d'humeur toujours sentis. Anne.
Il y a des terrasses qui ont poussé partout. En fait, à Paris, en ce moment, on ne marche plus sur les trottoirs, on slalome entre les terrasses.
C'est vrai.
L'autre fois, je suis sortie de chez moi, il y avait des gens qui mangeaient devant ma porte cochère de mon immeuble. J'ai dit bon appétit, non, j'apporte pas les cafés, je veux juste prendre mon courrier. Avec le Covid, on pensait que les gens étaient déprimés, angoissés, fatigués, mais quand on voit les terrasses, on comprend qu'ils étaient juste assoiffés.
Oui, tout simplement.
Et là, ils vont nettement mieux. Autant l'hydroxychloroquine, ça marche pas forcément, autant un verre de rosé, ça te balaye tous les virus.
Voilà. Anne Roumanoff, vous aimez sa lecture divertissante de l'actu?
Oui, j'adore Anne. J'adore Anne aussi parce que c'est quelqu'un de très, très généreux et très intègre. Elle fait les choses comme ça. Et c'est elle me parle, cette femme. Et en fait, quand j'ai appelé Anne pour lui proposer, tout de suite, elle m'a dit, parce que tous les gens, j'ai pas beaucoup de moyens pour le faire, ce festival. Donc tout le monde a joué le jeu. Les Corses ont été extraordinaires. Ils ont tous donné en service des choses merveilleuses qui font que j'arrive à le faire. Anne aussi, et tous les comédiens et toutes les pièces, ils sont venus vraiment pour même pas le quart du prix qu'ils demandent d'habitude. Ils sont venus vraiment presque pour rien. Alors j'essaye de les gâter.
Oui, mais c'est pour l'enthousiasme créatif.
Mais l'enthousiasme est là
édition.
Et je suis heureux parce que j'ai réussi quand même à avoir des gens que j'aimais. Et voilà, Philippe Chevalier qui va venir avec Panique au ministère, que j'adore.
Alors c'est du théâtre, de la variété, de l'humour. Vous n'oubliez pas la chanson, la polyphonie corse sera présente.
Oui,
bien
dans
sûr,
un spectacle, une création là d'abord, dans première partie de soirée qui sera par un ami, Jean-Paul Padovani et sa femme Claudia Padovani, qui sont des danseurs de tango, un groupe tango ostinato et de théâtre et de danse contemporaine, et qui me font une création d'une demi-heure sur des chants polyphoniques corse. Oui. J'appelle ça la soirée corse, et après on a un magnifique spectacle qui est Bella Ciao, qui est un spectacle sur les Corses, en fait, sur les fêtes les héros corses, et sur trois femmes qui sont des chanteuses du groupe Soledone, qui est un merveilleux groupe groupe polyphonique, et qui vont, elles, raconter, jouer la comédie, chanter, s'indigner, protester, enfin, oui, bah, nous emmener dans un voyage comme ça sur la Corse, absolument superbe, avec des projections et tout. Alors, ça va être très
si elle ne vous donne pas envie avec ça, Véronique Genest, il faut juste prendre un billet d'avion. La billetterie est ouverte pour les 8 spectacles en l'espace du 17 juillet.
Et dans la journée, le soleil, la plage, les restos sur la plage, la Balagne, la Merveilleuse.
Le paradis et le terrain de jeu. Et le terrain de jeu. Qui vous sert aujourd'hui d'écrin pour ce premier festival. Bon, bah, c'est là où on part avec vous. Là,
ah, j'aimerais bien.
Je t'emmènerai, n'est-ce pas ?
Venez tous, on va s'éclater.
Merci Véronique Genest. Corse en scène, première édition. Entre Calvi et Lumio en Balagne. Merci Véronique Genest, notre essentiel ce soir sur Europe 1. A tout de suite avec Corinne Boulou, Johanna Chabas et Cédric Pioline.
Cédric Pioline,
Wendy Bouchard,
Roland Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
19h50 sur Europe 1, en direct de Roland-Garros, au pied du grand cours central Philippe Châtrier, où nous retrouvons pour la DER des DER de cette édition 2021. Corinne Boulou, la grande Corinne.
Bonsoir
Corinne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On a vécu en direct la fin du match, c'était magnifique.
Incroyable.
Et la victoire
incroyable
de Djokovic. Bonsoir Johanna Chabas.
Bonsoir.
Et Cédric Pioline qui vient tout juste d'interviewer le gagnant et de la terre battue au studio d'Europe 1.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir Cédric, quel match de folie.
Oui, incroyable, ce comeback... presque historique, revenir à 2-7-0 dans une finale de Grand Chelem, c'est rare.
Ouais. Il n'y en a que 5 qui l'ont fait. On a vu ça avec Axel May, qui est là-haut,
là-haut encore,
en cabine commentateur, rendu là-haut, parce qu'il est à 3 étages plus haut, pour suivre la fin de la cérémonie protocolaire, effectivement.
Et les mots de Djokovic.
Je suis très fier, très content, très heureux. Je voudrais arrêter pas ici. Je voudrais continuer cette année, mais aussi à Roland-Garros, j'espère, à moi, une ou deux fois, vous voir tous les publics.
Mais tu vas continuer. Tu vas continuer, Novak. Bravo à toi.
Au moins encore une ou deux fois. Il a quel âge, Novak Djokovic, Corinne Boulou ?
Il a 33 ans.
10 ans les séparés, hein, les deux titans là, du soir.
Oui, oui. Non, effectivement, son dernier titre, c'était 2016, à Roland-Garros. Et c'est vrai, Cédric, qu'on a assisté à un incroyable scénario, parce que Stefanos Tsitsipas commence très bien la partie. Il va remporter au tie-break la première manche, mais avec déjà un premier accro, on va dire, pour Novak Djokovic, une chute incroyable en essayant d'aller récupérer une amortie de Tsitsipas, et il chute, mais vraiment lourdement. Et là, on se dit, d'abord, on a peur qu'il se soit foulé une cheville, et puis tout va bien, il fait signe, tout va bien, et puis derrière, il perd, alors il break quand même Stefanos Tsitsipas, mais il perd son service, et au tie-break, le numéro 1 mondial s'incline. Dans la deuxième manche, on le trouve sans énergie, le Serbe. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors lui, Stefanos Tsitsipas en profite, il est dans son match, il est bien, et il remporte la deuxième manche. Et là, il est mené 2-7-0. Stefanos Tsitsipas touche vraiment presque du doigt la coupe pour sa première finale en Grand Chelem. Et puis là, Cédric, tout bascule.
Tout bascule, oui. Alors je crois que, enfin, 2-7-0, évidemment, il avait fait du chemin, mais la route était encore longue pour éventuellement soulever la coupe. Je crois que, si je puis dire, il a fait, à mon sens, une petite erreur, le Grec, c'est qu'il s'est fait un petit peu endormir par ce moment-là où, justement, Djokovic a été moins combatif, on va dire ça comme ça.
C'est assez étonnant.
Et puis, Stefanos a mis moins d'intensité, moins de... Il a pas profité de ce moment pour vraiment mettre complètement la mainmise sur le match et s'envoler vers la victoire. Finalement, Djokovic en a profité pour revenir. Il a fait le break. Et puis, finalement, il a fait venir le kiné aussi après.
Ouais,
le
grec. Une baisse physique quand même, et musculaire.
Oui,
aussi,
petit peu, sûrement une baisse physique. Et puis, finalement, le match s'est complètement équilibré. Et après, je dirais que, oui, intrinsèquement, il est numéro un mondial parce qu'il est un peu plus fort que les autres.
Et très expérimenté. C'était quand même sa 29e finale en Grand Chelem. C'est un truc de dingue. La 6e, là, à Roland-Garros. Alors évidemment, avec ces grands joueurs là, les statistiques sont impressionnantes, mais forcément dans un cinquième set, Cédric, ça joue entre l'expérience, on va dire, d'une première finale pour le Grec de 22 ans, rappelons-le, Et l'expérience de Novak.
Oui, oui, il y a, sur le papier, il n'y a pas photo. Et c'est en fait la longévité de ces joueurs-là, comme Djokovic, Nadal et Federer, fait que quand il y a un genou, si je puis dire, qui arrive en phase 2, eh bien... ils ont un déficit d'expérience, comme vous venez de le dire, qui est immense. Et donc, ils savent s'appuyer complètement dessus, gérer tous ces moments et appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. Il l'a parfaitement montré au fur et à mesure de la rencontre. Mais je crois vraiment que ce Roland Garros, oui, il y a eu cette finale où il est revenu de 2-7-0, mais il a eu une demi-finale extrêmement dure. Il a eu un quart de finale contre Berrettini dur. Il a eu un huitième de finale contre Musetti où il était 2-7-0 aussi. Donc deux fois 2-7-0. Donc c'est vraiment un des Roland-Garros ou des grands chelems les plus difficiles, je pense, pour lui.
Est-ce que c'est un Roland-Garros de la bascule entre les générations? Alors, on aurait pu y arriver ce soir à Tsitsipas. Pour le reste, non, c'est...
Pas complètement, puisque en fait, voilà, c'est Djokovic qui a gagné. Mais c'est vrai qu'on voit que sur celui-ci, sur Melbourne, sur l'US Open, où pour le Dominique coup, il y avait Thiem et Zverev. Donc, il n'y avait ni Nadal, ni aucun des trois grands. Donc, ça se rapproche de plus en plus. Il y a eu Thiem qui en a pris un. Mais oui, forcément, plus ça avance, plus cela vieillit et les jeunes poussent et progressent.
C'est inexorable. Hein,
ouais.
Pardon,
mais... Alors on va passer justement avec Johanna à un moment important à l'issue d'une finale, Cédric. C'est quand il faut remettre le trophée. Alors là, c'est deux légendes aussi du tennis mondial qui ont remis le trophée tout à l'heure. C'est Björn Borg et Jim Courier. Björn Borg, vainqueur ici il y a 40 ans. Et Jim, que vous connaissez bien, Cédric, qui lui s'était imposé il y a 30 ans. Et donc, il y a quelqu'un pour graver les noms sur les coupes,
c'est ça.
Quasiment en temps réel, Johanna.
Elle était à deux doigts, Véronique Jeunesse, de l'avoir sur la sienne. Tu vois, peu de choses près, Véronique.
Non, mais oui, il faut imaginer cette coupe mythique que Novak Djokovic vient de soulever. C'est donc 14 kilos d'argent, un design très simple, une grande vasque avec au sommet des fleurs de vigne, deux petites anses sur le côté, et donc sur cette base, tous les noms des vainqueurs de Roland-Garros sont gravés, et tout ça depuis la première édition. Et je suis donc allée à la rencontre de Grégory Morisot. C'est lui qui grave et qui fait ça depuis plus de 20 ans. Et pour ce fan de tennis, c'est chaque année un grand honneur.
Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir des pièces comme ça dans nos mains, enfin surtout dans les miennes. La vibration du nom vient surtout par rapport à son nombre de victoires. Donc c'est sûr que quand on va graver Nadal ou Djokovic ou Federer, ce sont des immenses joueurs qui ont remporté tout ce qu'on pouvait faire sur l'ATP Tour. Évidemment, quand on grave un tel nom, on en a des frissons.
Ouais, c'est une grande fierté pour celui qui grave. Et en même temps, Johanna, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein.
Ça, c'est ça, effectivement. Grégory a alors refusé de me dire combien de fois il s'était trompé. C'est sacré, selon lui. Mais il a toujours pu se rattraper, surtout qu'il a le temps. Car en fait, il ne doit pas inscrire le nom du vainqueur en quelques minutes, juste après la finale. Il a toute une année pour le faire, jusqu'à la prochaine édition du tournoi. Car la Coupe des Mousquetaires reste à Roland-Garros. Le vainqueur ne la ramène pas à la maison. Il repart simplement avec une réplique plus petite, où son nom n'est même pas inscrit. Seul Raphaël Nadal, le roi de la terre battue, a eu le droit à une réplique identique, à la même taille que la Coupe des Mousquetaires. C'était pour sa 10e victoire ici en 2017.
Merci Johanna, Chabas, Cédric, Pioline. C'est vrai que les coupes sont la mémoire de l'histoire d'un tournoi. Vous qui avez vécu une finale de Grand Chelem, c'était en 1993, l'US Open. Elles font rêver toujours.
Oui, bien sûr, c'est la symbolique. Et c'est vrai que, notamment, on sait que Raphaël Nadal a dédié une pièce entière, parce qu'il en a quand même quelques-unes, à toutes ses coupes, et notamment celle du Grand Chelem. Il en a déjà une vingtaine. Et les principales autres des grands tournois. Donc oui, c'est une symbolique, c'est important d'avoir ça et de... Ici, la Coupe des Mousquetaires, comme on dit. Hein. Donc, il y a vraiment une histoire, comme le saladier d'argent pour la Coupe Davis, la Coupe Suzanne Lenglen pour les femmes ici à Roland-Garros. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça, d'avoir cette tradition et finalement une forme de transmission des anciens champions vers les nouveaux champions.
Il la tient tout contre lui en ce moment, sa coupe, le vainqueur de l'édition 2021, Novak Djokovic, alors que le cours central se vide à l'issue de ce tournoi de Roland-Garros. Il nous reste une petite minute trente pour faire un petit bilan de cette édition quand même, Corinne Boulou.
Bah, moi je dirais une belle édition quand même. Hein. Alors il y a eu des surprises avec l'abandon en cours de route de Roger Federer, de Naomi Osaka, la japonaise numéro 2 mondiale. Il y a eu des couacs avec le tennis français qui n'était plus présent dans les simples après le deuxième tour. Mais il y a eu de grands moments d'émotion, les larmes de Stefano Tsitsipas en demi-finale hier, lorsqu'il... Oui, puis hier avec le double, Herbert, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Ça, c'est le côté, l'autre consolation des Français avec un titre en junior aussi. Et puis, il y a eu cette innovation des sessions de nuit à confirmer, je dirais, pour les prochaines éditions. Et puis, ce public, Cédric, ça pour les joueurs de tennis, c'est unique et on voit, ça change tout.
Indispensable d'avoir l'énergie. Enfin, tous ces stades qui sont construits sont faits pour accueillir du public, et c'est vrai qu'on a hâte de retrouver un stade plein comme on en a eu l'habitude, même si depuis le 9 juin ça s'est libéré, qu'il y a une jauge un peu plus importante, mais c'est indispensable pour que les champions arrivent à se sublimer. Ils ont besoin de l'énergie du public, donc vivement qu'ils reviennent.
Eh bien, c'était un plaisir de vous accompagner et de vous entendre au quotidien. Cédric Pioline.
Plaisir partagé.
Ouais, Corinne Boulou.
Je vous remercie. Et puis, je voudrais remercier aussi toute la direction du tournoi et tous ceux qui nous ont aidés ici pour avoir des invités en studio et faire vivre et être au rythme de Roland-Garros pendant cette quinzaine.
Les formidables équipes techniques d'Europe 1. Axel May, tout là-haut, qui
et
est
Johanna Chabas.
Et Johanna Chabas, premier Roland-Garros dans les coulisses. Tout s'est bien passé.
Très
vous
bien.
Vous l'avez
eu,
votre pot de miel?
Pas encore.
Vous allez le chercher, hein. Les ruches de Roland-Garros, vous partez pas sans. Il y a du miel. Véronique Jeunesse, vous reviendrez à Roland-Garros, Véronique Jeunesse aussi?
Ouais, bah oui, hein, moi j'y allais beaucoup avant. Là. C'est que je suis rarement en juin à Paris, puis là, avec mon festival, ça va être compliqué.
Festival encore,
mais j'adorais. L'ambiance est toujours géniale ici.
Merci à tous, merci de votre fidélité à Europe 1. On se retrouve avec l'info juste avant Europe 1 Football Club. Il est 20h sur Europe 1. Bonsoir Sophie Tissot.